7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 mars 2019, journée internationale pour les droits des femmes. C'est triste de devoir faire une journée pour rappeler les fondamentaux d'égalité et pourtant, c'est bien nécessaire, vu justement ces inéquités, notamment dans le milieu professionnel, sans compter bien sûr les violences faites aux femmes qui sont en augmentation constante, notamment en France. À 7h15, Maud Descamps consacrera son enquête d'Europe 1 va plus loin sur ces inégalités dans les entreprises. Et vous verrez que même l'intelligence artificielle pense par défaut comme un homme. À 7h45, la karatéka Laurence Fischer, triple championne du monde, sera avec nous. Elle lutte à sa façon en aidant, en accompagnant les femmes victimes pour leur apprendre à se défendre, bien sûr, avec le karaté, mais aussi à se réapproprier leur corps et leur esprit. 8h15, une femme aux responsabilités, la secrétaire d'État à la transition écologique Emmanuelle Wargon, au lendemain des promesses du président Macron d'aller, je cite, « plus fort, plus vite et plus loin » dans cette transition écologique dont, c'est vrai, on ne voit plus la couleur. Sans oublier les Restos du cœur, c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la collecte pour l'été avec un grand concert des Enfoirés diffusé ce soir. Merci d'avoir mis Europe 1 pour vous réveiller. On vous accompagne jusqu'à 9h.
Et bienvenue en ce vendredi 8 mars sur Europe 1. Excellent réveil à tous, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
7h, le journal Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Une journée pour rappeler l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Europe 1 vous emmène à la rencontre de celles qui font changer les choses, notamment dans l'armée. Le djihadiste français Mehdi Nemmouche, reconnu coupable des assassinats terroristes au musée juif de Bruxelles en 2014. Dans ce journal également, la suite du grand débat et la difficulté de recruter des volontaires pour la phase 2. Et puis le Stade Rennais qui renverse Arsenal en 8e de finale aller de la Ligue Europa.
Europa.
Nous sommes donc le vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et s'il y a une institution, un monde qui part de très loin sur les questions d'égalité et même de présence féminine, c'est bien celui de l'armée. À peine 15% des militaires français sont des femmes. Nous avons choisi ce matin sur Europe 1 de vous faire rencontrer la capitaine Sarah. Elle est aviatrice, elle a 30 ans et pilote un Transal, l'un des plus célèbres avions de transport de l'armée de l'air. Elle rentre de sa troisième opération extérieure au Niger. Roman Oquet la suit. Sur la base aérienne d'Evreux.
Harnachée dans le cockpit du Transal, décollage imminent pour la capitaine Sarah et son équipage.
On a une HIP sur le point 1, 2, 3, 1, top, décollage.
L'engin de 40 tonnes survole les champs normands, les éoliennes, une récompense après 7 ans de formation dans l'armée de l'air.
Je voulais vraiment un métier d'action sur le terrain où on ait une vraie utilité derrière. Moi, j'étais déployée en opération extérieure. Du coup, le jour de Noël, on a pu larguer au milieu du désert des vivres, de l'eau et également du matériel aux troupes françaises. C'était vraiment gratifiant, un souvenir marquant.
Ce matin, séance d'entraînement, l'aviatrice coordonne un transport de munitions avec un scénario d'attaque ennemi. Retour à la base, exercice réussi pour l'instructeur Benoît.
Ouais, sur moi, dans l'ensemble, c'est une très bonne mission.
Lors du débrief, comme souvent, Sarah n'est entourée que d'hommes.
On ne focalise pas du tout dessus. Sur 3 opérations extérieures, j'ai fait 2 opérations extérieures avec une femme comme commandant de bord. Ça se féminise quand même.
50 femmes pilotes de transport pour 1000 hommes, mais elles sont indispensables. En juin, Sarah repart au Niger pour une autre mission.
Roman Oquet, effectivement, l'armée française fait malgré tout une figure de bon élève au niveau mondial, puisque nous avons la 4e armée la plus féminisée au monde.
Et enquête d'Europe 1 va plus loin dans 10 minutes justement sur ces inégalités hommes-femmes dans les entreprises. Et puis une femme exceptionnelle tout à l'heure à 7h45, la triple championne du monde de karaté, Laurence Fischer. À la une également ce matin, Mehdi Nemmouche, déclaré coupable de la tuerie du musée juif de Bruxelles.
Après 2 mois de procès et 3 jours de délibération, les jurés de la cour d'assises bruxelloise ont livré un verdict accablant pour le djihadiste français et son co-accusé, coupable donc des 4 assassinats terroristes du 24 mai 2014. Les efforts déployés par la défense qui avançait la théorie d'un complot autour de leurs clients n'auront donc convaincu personne. Isabelle Horry.
Balayer la thèse complotiste d'un Mehdi Nemmouche piégé par des services secrets étrangers. Le jury n'a rien retenu de la plaidoirie de la défense du djihadiste français. Un ensemble d'allégations, des déductions éparses, selon l'arrêt de la cour d'assises. Un arrêt qui motive méticuleusement le verdict. Pour les 12 jurés bruxellois, Nemmouche est bien l'auteur de la tuerie du musée juif. C'est lui qui a exécuté de sang-froid 4 innocents en 82 secondes, le 25 mai 2014. Il liste les preuves matérielles présentées par les experts. Les traces de l'ADN de Mehdi Nemmouche sur les armes, les vêtements retrouvés sur lui similaires à ceux du tueur. Le terroriste écoute sans émotion apparente, l'air quasiment absent, comme pendant l'essentiel de ces 2 mois de procès. À ses côtés, son complice, Nasser Bendrer, est lui en train de pleurer, le visage enfoui dans les mains. Il vient d'être jugé co-auteur des faits. Les deux hommes risquent la prison à perpétuité. L'audience sur la peine aura lieu lundi. Mais pour les avocats des parties civiles, ce jugement est déjà exemplaire. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Le cardinal Barbarin remettra donc sa démission dans les jours qui viennent au pape François.
Le visage de l'archevêque de Lyon est à la une de nombre de vos journaux ce matin. Le choc, titre notamment La Croix, après sa condamnation hier à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre. Un jugement qui a couronné en quelque sorte le combat de l'association de victimes La Parole Libérée, même si pour son président François Deveau, tout n'est pas encore terminé.
Il n'y a pas de triomphalisme, hein. Il y a juste l'aboutissement d'un engagement qui aura effectivement été d'une intensité peu comparable.
Le cardinal Barbarin prend acte de la décision, mais il va faire appel, François Deveau.
Oui, qu'il fasse appel, hein, c'est son choix et... Peut-être qu'il faudrait quand même prendre le temps de bien lire les motivations qui ont été exprimées par le jury, parce que je vois pas tellement l'axe, mais s'il souhaite faire appel, il peut. Mais encore une fois, c'est ne pas comprendre le niveau sur lequel on place le débat. La justice n'est qu'un moyen pour répondre à une cause morale. Faire appel pour aller chercher quoi ? Une prescription ? Un vice de procédure ?
François Deveau de l'association La Parole Libérée avec Mathieu Béliard hier dans votre grand journal du soir. L'Italie va-t-elle enterrer le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin ? Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a exprimé hier ses forts doutes et sa perplexité sur l'opportunité de cet ouvrage. Il dénonce aussi des coûts injustement répartis entre les deux pays selon lui. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, répond et se dit convaincue, je cite, de la pertinence du projet.
Et Emmanuel Dutheil nous en parle plus avant, tout à l'heure à 7h40. Dans l'actualité aussi, Théo, ce nouvel appel à manifester aujourd'hui en Algérie.
Pour le troisième vendredi d'affilée, mouvement de contestation contre un cinquième mandat du président Bouteflika, qui s'est exprimé hier dans un communiqué. Il met en garde contre le chaos, ce qui n'empêchera pas Nadia, Hamel et Fatia de descendre à nouveau dans la rue à Alger tout à l'heure.
Ce sera bien plus qu'une marche, c'est une manifestation. Évidemment, je vais sortir avec mes sœurs, avec les membres de ma famille. Il va y avoir des hommes, des femmes. Ce sera le troisième acte, le troisième vendredi que nous sortons dans les rues d'Alger pour manifester, pour revendiquer nos droits d'une seule et même voix, pour dire que l'Algérie nous appartient.
J'ai eu à marcher sans avoir programmé cela la semaine dernière. J'ai eu à travailler vendredi dernier, sachant qu'à côté, il y avait des manifestations et une marche pour une bonne cause. J'ai dû faire un break et pendant mon break, au lieu d'aller déjeuner, j'ai été marcher. Puis je suis revenue à mon bureau. Je veux le changement.
À un certain moment, il y en a marre de tout. On aimerait vraiment avoir un changement radical de ce système, surtout parce que ça devient trop. J'ai 20 ans. Depuis ma naissance, je sais qu'il n'y a que Bouteflika président, donc on voudrait vraiment un changement.
Des manifestants à Alger, au micro de Nour Chahine pour Europe 1. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump, condamné à 4 ans de prison aux États-Unis, Paul Manafort, reconnu coupable de fraude fiscale, il a caché plus de 55 millions de dollars sur des comptes à l'étranger.
Dans un instant, la suite de votre journal Théo Manval et la fin du grand débat. Et si vous étiez recruté pour la deuxième phase en région, à tout de suite.
Il est 7h08, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de Théo Manval, alors qu'Emmanuel Macron était interpellé hier à Gréoux-les-Bains sur l'écologie, voici la deuxième phase du grand débat qui se profile.
La première phase de consultation s'achève en effet vendredi prochain et ensuite doivent avoir lieu des grandes conférences, une par région avec des participants tirés au sort. Une plateforme est en train de recruter ses citoyens en appelant des numéros de téléphone tirés au sort donc, mais pas facile de les convaincre comme a pu le constater Marguerite Lefebvre.
Ils enchaînent les appels dans un brouhaha permanent. Ils sont une centaine d'opérateurs par jour et ils ont droit bien souvent au grand classique.
Acceptez-vous de répondre à quelques questions ? D'accord. Quand est-ce qu'on peut vous rappeler quand vous serez plus disponible ?
Et même quand la conversation s'installe, ça dure rarement très longtemps.
Nous donnons la possibilité de participer à une conférence citoyenne régionale qui se déroulera dans votre région à Paris. Sur le principe, acceptez-vous de participer à cette conférence ? Non. Et pourquoi non tout de suite ?
Trop contraignant, trop compliqué pour certains de se déplacer 48 heures malgré la prise en charge des frais par le gouvernement. Il y a aussi les citoyens, pas assez intéressés parfois. Gaspard Lancret-Javard est chef de groupe chez Harris Interactive.
Pour les personnes qui expriment une forme de scepticisme à l'égard de la démarche, nous pouvons leur rappeler qu'il s'agit d'un moment de démocratie et que s'ils souhaitent préciser leur état d'esprit, sur pourquoi la France ne va pas bien selon eux, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, c'est le moment parfait pour le faire. On avait anticipé que ça allait être difficile, on a la confirmation que c'est difficile, on avance.
En tout, il faut trouver environ 1000 personnes pour participer à ces débats. Les opérateurs sont prévenus, ils travailleront jusqu'à la veille de la première conférence pour tenter de convaincre encore et encore.
Reportage signé Marguerite Lefebvre. La dégradation de la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg samedi dernier n'était pas un acte antisémite. C'est un automobiliste sortant de boîte de nuit qui l'a heurté en faisant une marche arrière, indiquent les enquêteurs. L'homme a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance, placé en garde à vue, puis relâché hier soir.
On termine par le football et l'exploit du Stade Rennais face à Arsenal.
Les Bretons ont sèchement battu les Gunners 3-1 hier soir au Roazhon Park en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Inespéré face au 5e du championnat anglais et forcément, ambiance de folie à Rennes, Christophe Lamar.
Du rouge, du blanc, du noir partout, des écharpes, des drapeaux qui disent la fierté d'un peuple et d'un club. Et puis il y a ce brogose, ce chant celtique qui dévale les gradins et prend aux tripes. Cela n'empêche pas les Anglais de tirer et de marquer les premiers, mais les Rennais ne baissent pas les bras. Ils poussent et renversent le favori, un scénario de fou, une ambiance de rêve pour Morgan.
Exceptionnel, exceptionnel. Franchement, je pense jamais avoir vécu ça, c'était extraordinaire. Et puis le scénario du match, vous avez vu, il y avait une ambiance incroyable au début du match. On a été vite refroidis avec ce but à la 3e minute. Mais après, la suite, c'est que du bonheur, c'était extraordinaire.
Les joueurs rennais eux-mêmes n'en reviennent pas, à l'image de James Léa Sikidi.
Personnellement, depuis que je suis au club, j'ai jamais vécu ça. Il y a eu des grandes ambiances, c'était des grands moments, mais j'ai jamais vécu une ambiance comme ça. Franchement, c'est fantastique. C'est fantastique, j'ai pas les mots.
Il faudra maintenant confirmer et résister à l'orgueil anglais la semaine prochaine. Rennes, Christophe Lamar, Europe 1.
Match retour, effectivement, jeudi prochain. Faudra éviter de faire comme Paris.
Ah oui.
Dit-il.
Dis-je.
Merci Théo Manval.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et les 7h11, Pierre, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot.
Bonjour Martin.
Bonjour Pierre.
Où est-ce que vous vous trouvez ce matin ?
Ah, je suis dans un village perdu dans la campagne aveyronnaise dont le nom va tout de suite vous faire penser à un objet si je vous dis l'aïeul.
Ah, les couteaux.
Les couteaux, évidemment, un nom, une marque mondialement connue, sauf que les habitants du village, les artisans, ne pouvaient plus l'utiliser pour créer de nouveaux produits jusqu'à cette semaine. La commune vient de récupérer l'usage de son nom, usage confisqué pendant 25 ans par un entrepreneur parisien qui l'avait déposé pour vendre vêtements, chaussures, barbecue, signé l'aïeul. La justice a donc finalement donné raison au village, à l'élu Vincent Alazar qui bataille depuis des années.
C'est la fierté de dire « enfin on est reconnu ». On nous a fait comprendre pendant longtemps qu'on était simplement une petite collectivité de 1267 habitants et qu'on n'avait aucun intérêt pour personne. Donc là, on a gagné.
Voilà, ils ont gagné, mais qu'est-ce que ça va rapporter aux habitants de la commune ?
Bah, tenez, je vais vous emmener dans l'atelier de Benoît. Il fabrique les célèbres couteaux, mais pourquoi pas créer des cuillères l'aïeul ou des fourchettes par exemple ? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, ça lui était interdit.
Tout ce qui était art de la table, théoriquement, on n'avait pas le droit de le faire. Il avait déposé quand même énormément de classes de produits avec le nom l'aïeul. Je pense qu'on va arriver à faire revenir les gens sur l'aïeul. Nos futurs enfants pourront créer une marque commerciale à l'aïeul.
Ça, c'est une très bonne idée, hein, les arts de la table. Protéger le nom de sa commune comme une marque, ça pourrait intéresser d'autres villes.
Oui, parce que la décision de justice est inédite et elle va certainement, effectivement, donner des idées. Écoutez l'un des plus anciens couteliers du village.
Nous serons la première ville en France qui aura défendu son nom et qui l'aura protégé. On va être la tête de file, comme on dit, du troupeau, mais tous les autres vont s'engouffrer là-dedans. Parce qu'eux aussi, ils veulent se défendre. Hein. Et pourtant, c'est des grandes villes pour certaines et elles n'ont jamais rien fait.
Ils pensent à une ville en particulier ?
Marseille, par exemple, et son célèbre savon qui rencontre le même problème. Certains produits ne sont pas du tout fabriqués sur place, de qualité médiocre, et sont pourtant vendus sous la marque Savon de Marseille.
Un savoir-faire français qu'il faut donc protéger, comme à l'aïeul, et des habitants qui n'ont pas lâché l'affaire. Merci beaucoup, Martin Fenot.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre l'édito éco signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
C'est un paradoxe français en termes d'épargne. Nos concitoyens sont partisans du risque zéro ou presque. Hein.
Exactement, les Français sont très prudents vis-à-vis de la bourse et pourtant, quand il y a des privatisations éventuellement, ils peuvent regarder.
Et à 7h20, l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ne manquez pas notre enquête sur l'égalité hommes-femmes en entreprise. Égalité salariale, intégration des femmes dans les milieux professionnels masculins. Où est-ce qu'on en est en 2019 ? Réponse dans Europe 1 va plus loin.
Mais bon réveil sur Europe 1, il est 7h13.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre
Devineau. Et c'est le lancement de la collecte nationale des Restos du Cœur. Aujourd'hui, objectif, récolter 8000 tonnes de denrées alimentaires. Ce week-end, les bénévoles attendent votre aide aux caisses des grandes surfaces. Médine Mouche, reconnu coupable de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014, coupable de 4 assassinats terroristes selon la cour d'assises, il risque la perpétuité. Sa peine sera connue lundi. La mise en examen de 7 personnes en Isère, soupçonnées de viol ou d'attouchement sexuel sur 3 enfants de leur propre famille. Trois frères et sœurs âgés de 4 à 10 ans, ces adultes dont leur mère et leur beau-père ont été placés en détention provisoire à Grenoble. Et puis Rennes prend une option sur la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Victoire 3-1 hier soir face à Arsenal en 8e de finale aller.
Europe 1. Et c'est l'heure, Pierre, de l'édito éco avec Rhône-Alpes, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, la Bourse de Paris a doublé de valeur en 10 ans. Et pourtant, à peine un Français sur 5 est prêt à mettre de l'argent en bourse. Les Français sont des épargnants frileux.
Ah oui, ça, ils préfèrent de très très loin le livret A qui pourtant rapporte 0,75% exactement. C'est 2 fois moins que l'inflation, donc oui, c'est pas grand-chose. À peine un Français sur 5 se dit prêt donc à investir en bourse selon un sondage Odoxa Linxia. En revanche, presque la moitié, ils sont, mais alors, totalement hostiles. Et alors, quand on leur demande pourquoi, vous en avez 1 sur 2 qui a peur d'y perdre ses économies. 1 sur 5 qui veut pas investir en bourse parce qu'il n'y comprend rien. Après tout, c'est une bonne raison. Et puis, alors, je le signale, 9%, vous me direz si vous pensez que c'est beaucoup ou pas, 9% qui ne veulent pas investir en bourse parce qu'ils pensent que c'est immoral.
Bon.
Voilà, une vieille trace de notre vieille culture chrétienne, peut-être, je ne sais pas.
Alors, les téméraires qui se risquent en bourse, ils achètent quoi ?
Ils achètent forcément des valeurs sûres. Plus de la moitié achètent des actions du CAC 40. Alors, le CAC 40, vous l'avez dit, a doublé en 10 ans. C'est donc clairement mieux que le livret A. Et sur 10 ans, effectivement, certaines grandes valeurs du CAC 40 même ont très fortement progressé. Si vous aviez acheté, par exemple, des actions Kering, le groupe de luxe, il y a 10 ans, vous auriez gagné 1050%. Et toujours dans le luxe, Hermès, 760%, LVMH, 685%. Et puis, autre secteur phare, l'aéronautique. Si vous aviez acheté des actions Safran, qui fabrique des moteurs d'avion, 1600% de gains en 10 ans, Airbus 1000%, etc. Et pourtant, eh bien, 7 Français sur 10 pensent quand même que placer son argent en bourse n'offre pas les meilleurs placements. En fait, les Français sont des super fourmis. Ils préfèrent la sécurité absolue à la moindre prise de risque.
Et quand on leur parle pourtant de privatisation, ils disent pas non.
Alors là, il y a un petit peu plus d'appétit. 1 sur 3, par exemple, se dit prêt à acheter des actions de la Française des Jeux. C'est une entreprise, après tout, que tout le monde connaît. On a plus de chances de gagner de l'argent ou moins de risques d'en perdre avec des actions de la Française des Jeux qu'avec un billet de loto. Un Français sur 4 aussi serait prêt à investir dans la privatisation d'aéroports de Paris, si toutefois elle a lieu. Et un petit peu moins dans Engie. Il faut dire, Engie est peut-être un peu moins connue du grand public pour les privatisations. Donc, les Français veulent bien prendre un petit risque, mais enfin, sinon, ils restent très prudents.
Les Français frileux pour acheter des actions en bourse. Merci beaucoup, Nicolas Paré.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à l'égalité homme-femme dans le monde du travail.
Et même si la loi est très claire, à travail égal, salaire égal, force est de constater, et bien que les inégalités persistent en entreprise. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour Pierre.
Du service économie d'Europe 1. Vous avez mené l'enquête, premier constat, c'est pas gagné.
Non, et pourtant ce principe d'égalité, il a été inscrit dans la loi il y a 46 ans, ça fait un demi-siècle. Alors bien sûr, il y a eu des progrès, hein. Les écarts de rémunération se réduisent, mais les femmes gagnent toujours 9% de moins que les hommes à poste égal. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes sont discriminées. Une femme cadre, en 2019, gagne 26% de moins que ses collègues masculins. Et dans les hauts salaires, eh bien là, c'est la catastrophe, hein. Une entreprise sur deux a moins de 2 femmes dans son top 10 des plus grosses rémunérations.
Voilà pour le constat. Alors, comment est-ce qu'on explique ces inégalités ? Est-ce qu'elles sont sciemment cultivées par les entreprises ?
Alors, il faut être lucide, hein. Réduire les écarts de rémunération, évidemment, ça a un coût, donc les entreprises ne se précipitent pas, hein, pour régler le problème. Puis, il y a les facteurs d'égalité identifiés, les temps partiels, le congé maternité. Et puis, il y a aussi une raison plus insidieuse. Il y a un biais. À discours égal, les hommes et les femmes ne sont pas perçus de la même manière. Par exemple, quand une femme négocie une promotion. Ça, c'est ce qu'a constaté Anne Boring, chercheure à Sciences Po.
ça ne leur réussit pas de la même façon qu'un homme. Par exemple, le poids de la modestie ou des valeurs dites un peu féminines sont très importantes et font que lorsqu'une femme ne se comporte pas de façon modeste, elle peut être sanctionnée. Donc il y a plus d'incertitude sur le fait de est-ce que ça va bien se passer ou pas lorsque je demanderai. Et c'est cette incertitude-là qui rend les phases de négociation plus compliquées pour les femmes.
Totalement édifiant. Ces stéréotypes, ces inégalités sont accentuées quand les femmes travaillent dans des secteurs où elles sont pas nombreuses.
Eh bien oui, comme l'informatique, 30% de femmes seulement, et elles sont perçues comme moins compétentes. Ça, c'est l'expérience qu'a faite Yaël Dehaz, qui forme les femmes au codage informatique à la Société Générale.
On a proposé des lignes de code écrites par des hommes et des femmes, sans dire c'est écrit par un homme ou par une femme. Eh bien, le code écrit par des femmes a été mieux noté. En revanche, dès qu'on a mis ce code et écrit par une femme, poum, on est redescendu en bas du classement. Parce que quand c'est écrit par une femme, on suppose que c'est moins lisible. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. Donc revenons dans le code, les filles, c'est fait pour nous.
Ça, c'est CQFD, hein. C'est la preuve par A plus B. Ça.
Exactement. Mais c'est édifiant parce qu'en fait, en réalité, une ligne de code écrite par une femme va être complémentaire d'une ligne de code écrite par un homme. Et au final, c'est l'entreprise qui va y gagner en performance.
Maud, concrètement, est-ce qu'il existe aujourd'hui des initiatives pour réparer ces inégalités et ces clichés?
Alors oui, il y a celle de Yaël Dehaz dont je vous parlais, donc qui forme les femmes au métier de l'IT. Et puis, il y a des réseaux comme Elle Bouge, qui a été créé il y a 10 ans par Anne-Sophie Polak, qui va dans les lycées présenter les métiers de l'industrie aux filles.
Elle découvre des témoignages enthousiastes de femmes qui sont passionnées et donc elles se rendent compte qu'elles peuvent y avoir accès. On a cette particularité d'avoir autant de filles que de garçons en terminale S. Et en revanche, l'année d'après, les garçons sont 4 fois plus nombreux à aller dans les études qui mènent à ces secteurs et à ces métiers d'ingénieurs. Donc le sujet, il est bien de débloquer les mentalités, de casser les stéréotypes, mais aussi la méconnaissance du tissu industriel.
Alors pourquoi il est essentiel de rééquilibrer ces branches dites masculines? Avant tout pour rétablir, ou plutôt établir, l'égalité homme-femme, mais aussi parce que les chercheurs constatent que l'intelligence artificielle, vous savez, ce sont tous ces objets connectés que nous avons à la maison, ces objets reproduisent ces stéréotypes genré. Alors quelque part, c'est logique, hein. Toute cette technologie, elle a été massivement pensée par des hommes et donc l'intelligence artificielle a une vision purement masculine de notre société.
Donc tous les robots, même Alexa qui porte le nom d'une femme, pense comme un homme.
Alors, les robots de service vont être associés à une voix féminine parce que ça va être du bien-être. En revanche, il y a un petit chatbot qui existe pour les cabinets d'avocats pour améliorer la performance. Et là, ce chatbot est masculin.
Eh bien, merci pour cette enquête fort précieuse, Maud Descamps. Combattre les clichés, les stéréotypes pour faire bouger les lignes et faire bouger la France.
Il y a du boulot. Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone 39 21 50 centimes la minute ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre, c'est l'innovation avec Anissé Mbida. Si vous avez la phobie des aiguilles ou des prises de sang, c'est mon cas. Hein.
Moi aussi.
Anissé a quelque chose pour vous. À tout de suite.
Bon réveil avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il est 7h23. Il est 7h24. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour et l'innovation. Pierre, c'est avec Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Pierre.
On innove dans le domaine médical ce matin. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont la phobie des aiguilles. Les seringues seront bientôt équipées de capteurs pour être sûrs de piquer au bon endroit.
Oui, parce que c'est un véritable stress pour les patients, mais aussi pour les médecins. Vous savez, quand on rate une veine lors d'une prise de sang, qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, ou plus grave, quand on injecte un produit au mauvais endroit. Et bien, tout ça, c'est bientôt de l'histoire ancienne, parce que les chercheurs de l'hôpital The Brigham ont mis au point une nouvelle génération de seringues, ils l'ont appelée I2T2, et elle détecte la résistance de chaque tissu qu'elle est en train de traverser. Donc elle peut vous dire, attention, là on passe l'épiderme, là on passe le derme, hop, là on arrive à l'hypoderme. Ça évitera aux médecins de se tromper et aux patients de se faire charcuter.
Pour une piqûre classique en intramusculaire, j'imagine que ça ne change pas grand-chose. Ça sera plutôt pour les endroits difficiles à atteindre.
Oui. Par exemple, quand on se fait piquer dans l'œil, il y a une zone à atteindre qui est extrêmement précise, qui fait à peine 1 mm, sinon on risque d'abîmer la rétine. Et je pense aussi évidemment aux femmes enceintes, à la péridurale. Et bien là, les anesthésistes ne pourront plus la rater. Ils n'auront plus besoin d'avoir des doigts de fée puisqu'ils seront guidés par ces seringues à tête chercheuse.
Ces seringues intelligentes, elles sont déjà disponibles?
Alors non, pas encore, parce que comme tout équipement médical, elles doivent d'abord passer par une batterie de tests hein, avant de pouvoir être homologuées. Ça prend du temps, donc les médecins pourront les utiliser que d'ici 9 mois environ. Mais je pense que ça vaut le coup d'attendre, parce que ça fait plus d'un siècle que les seringues n'avaient pas vraiment évolué.
Eh ben, c'est le moment. En effet, vous avez raison. Merci Anis Ebida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kalman, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Il pique le temps, Laurent Cabrol.
Ben, le temps ne pique pas trop ce matin, puisqu'il fait 1 degré à Montélimar. Là, ça pique un peu. 3 à Rennes, 4 à Tours, 5 à Toulouse, 6 à Lille, 7 à Paris, 8 à Bordeaux, 9 à Lyon, et il y a 11 degrés à Bastia, températures actuelles. Mais vous voyez qu'il fait pas même, il ne fait quand même pas très chaud. En ce qui concerne alors la couleur du ciel, on va prendre une comparaison, si vous le permettez. La France est sous un temps, disons, d'alternance de nuages et d'éclaircies, en général, avec une grande bande, où les pluies sont encore présentes et vont s'effacer au fil des heures. Cette grande bande pourrait être, l'écharpe du sergent Garcia, par exemple. Si vous êtes
fou, Laurent Cabrol, mais on vous aime pour ça. Hein.
Le sergent Garcia, il a une grande écharpe, très large.
Le mec est complètement fou.
Mais où est-ce
que
vous ?
Eh bien, c'est là où vous avez la pluie. Les Landes, le Midi-Pyrénées, le Béarn, la vallée de la Garonne, le Massif central, le Mâconnais, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, le Rhône et l'Alsace. Ce sont des régions où il y a un peu de pluie et il y en aura encore un petit peu cet après-midi.
Bon.
Mais elles vont s'effacer.
C'est pas drôle, hein, la pluie en même temps.
Non, mais si je vous embête, dites-le. Alors, sur les Alpes et le bassin méditerranéen, il y a du soleil et il y en aura. Sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le centre, la région parisienne, le Poitou-Charentes, la Normandie et la Picardie, ce sera voilé. Et en Bretagne, nous aurons de la pluie. Et savez-vous quelles sont les villes où les femmes sont les plus belles ? Il y a un sondage qui est paru.
Oula !
Lyon, Nantes, Troyes, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Paris en 6, La Rochelle, Nice et Grenoble.
Ça n'a rien à voir avec les femmes, c'est les températures.
Non, c'est les femmes. C'est la journée de la femme. Les villes où les femmes sont les plus belles. Voilà, je viens de les citer.
Très bien.
Selon un sondage. Lyon, Nantes, Montpellier, Bordeaux.
Et ben voilà, comme ça c'était la météo complète de Laurent Cabrol. A tout à l'heure, juste avant 8h.
Pierre Devineau.
À 7h40, Jean-Michel Apathy qui reviendra sur la démission hier du cardinal Barbarin. À 7h43, Emmanuel Dutheil. Et cette fameuse ligne à grande vitesse Lyon-Turin torpillée par nos voisins italiens. 7h45, en studio avec nous, une triple championne du monde de karaté, Laurence Fischer. À l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, on va parler de son combat, celui de son association Fight for Dignity, pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
En ce vendredi 8 mars, il est 7h30.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À 7h30, le journal, c'est celui de Céline Kalman. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais sa peine ne sera pas annoncée avant lundi. Medine Mouche a été reconnu coupable de 4 assassinats à caractère terroriste, des faits commis en mai 2014 au musée juif de Bruxelles. Il est resté impassible à l'énoncé de sa culpabilité. Philippe Blondin en est le président du musée. Il s'est dit hier soir soulagé par ce jugement.
Les jurés ont fait leur travail en âme et conscience. C'était une tâche très lourde. Les témoins ont été également d'un courage exemplaire en indiquant du doigt que l'assassin était bien M. Nemouche. Une grande admiration pour notre système judiciaire qui a été mis à mal par un vilain, un homme qui a traité tout le système avec morgue et avec un dédain épouvantable. Eh bien, moi je vous dis que notre justice en Belgique a été vraiment exercée avec un talent exemplaire.
Témoignage recueilli par Isabelle Horry pour Europe 1. Le cardinal Barbarin va présenter sa démission au pape après le jugement d'hier. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir dénoncé les abus sexuels commis par un prêtre de son diocèse, le père Prénat. Philippe Barbarin a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Ses avocats vont faire appel. L'horreur en Isère. 7 personnes ont été mises en examen et écrouées, soupçonnées de viol et d'attouchement sexuel sur 3 enfants d'une même famille. 2 filles de 4 et 7 ans. Et un garçon de 10 ans. Les faits se seraient produits entre 2016 et 2018. Parmi les personnes écrouées, la mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère des enfants.
Europe 1, il est 7h31.
Et un échange marquant hier soir entre Emmanuel Macron et un participant à un débat à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence.
Il était question d'écologie. 400 personnes étaient présentes et le chef de l'État était interpellé par un garçon de 14 ans, Charlie.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyées au Nigeria, et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent?
Charlie applaudi par les participants du débat et voici la réponse d'Emmanuel Macron.
Une transition, c'est le passage d'un modèle à l'autre. C'est le passage d'un système qui avait aucune préoccupation écologique dans ses fondamentaux et qui n'était que économique et sur le profit, qu'on doit faire passer à un modèle qui produit et qui intègre la totalité de ses effets sur l'environnement. Alors, le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de le faire le plus vite possible, qu'on peut faire plus vite, plus fort, plus loin. Et on peut le faire si on donne plus de pouvoir aux acteurs locaux et si on change sans doute un peu nos méthodes. Mais ça veut dire qu'on va devoir changer notre manière de produire, de faire de l'agriculture, de nous déplacer. Par rapport à ça, c'est très clair que le modèle du tout argent est terminé.
Propos recueillis par Nathalie Chevance pour Europe 1. C'est la journée internationale du droit des femmes. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes confirme que la PMA pour toute la procréation médicalement assistée sera débattue avant cet été. Marlène Schiappa précise aussi que le Premier ministre a commandé une étude sur l'allongement du congé paternité. Allonger ce congé va dans le sens de l'histoire, dit-elle. Troisième journée de blocage dans certaines prisons françaises. Les surveillants réclament plus de moyens de protection, l'autorisation de fouilles élargies après l'attaque terroriste de Condé-sur-Sarthe. Mais pour Damien Pellin, premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires, il faut voir à plus long terme.
J'ai pas d'opposition à ce qu'on équipe les établissements, sauf que le problème se reposera d'une autre manière dans quelques mois ou dans quelques années, avec des armes totalement fabriquées. Un pied de chaise est par destination une arme très dangereuse. Un stylo bic est une arme très dangereuse. La grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'incapacité de savoir si une personne radicalisée ou non, va passer à l'acte de manière violente. Le début de réponse commence par une réelle évaluation des potentiels de dangerosité. Et pas une évaluation universitaire ou qui vient du sommet, mais une évaluation de terrain. Notre travail au sein de l'administration pénitentiaire, c'est aussi de prévenir la récidive. Donc tant qu'on n'aura pas travaillé sur comment on accompagne les gens, nous professionnels, sur un désengagement de la violence, on n'y arrivera pas.
Damien Pellin avec Salomé Legrand.
Ce n'est pas la première fois et ça ne sera sans doute pas la dernière nuit. Compliqué, on va dire, pour des passagers de la SNCF.
Ouais, on va dire ça comme ça. 800 personnes qui ont passé la nuit dans leur TGV qui devait au départ rallier Marseille à Paris hier soir. Mais le train est resté à quai à Lyon à 23h après plusieurs incidents dus à une panne. Le TGV est reparti très tôt ce matin après une nuit blanche pour beaucoup d'entre eux, comme Maël, 23 ans, joint par Chanel Petit cette nuit.
Il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des animaux. C'est juste aberrant en fait de voir ça. Le wagon-restaurant était fermé. Donc même plus moyen de se restaurer, même en payant quoi que ce soit. On nous a fourni du coup à 1h du matin des plateaux repas, dans les repose-bagages, voilà. Et puis servez-vous, comme des animaux, vraiment. Enfin, je suis juste dépassé de savoir qu'on a dormi ici. Et pendant que l'équipe, par contre, elle, du train, était dans un hôtel, bien au chaud. On ne traite pas des êtres humains comme de cette manière-là, et qui plus est des clients. C'est lamentable. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point on s'est senti humilié même d'être là.
Maëlle avec Chanel Petit. Acheter des billets de train dans les bureaux de tabac, la mesure va être bientôt testée, annonce hier du président de la Confédération des buralistes, Philippe Coy. Bison futé, ici le drapeau orange en Ile-de-France pour les retours aujourd'hui, bientôt la fin des vacances pour la zone C. Demain, ce sera rouge en Rhône-Alpes. À Caracas, la majeure partie du Venezuela, dans le noir complet, après une gigantesque panne électrique, plus de téléphone ni d'internet, selon la Compagnie Nationale d'Électricité, une centrale hydroélectrique aurait été saboté.
C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la collecte nationale des Restos du Cœur.
Si vous allez faire vos courses, vous pourrez donner à la sortie des magasins. La collecte coïncide avec la diffusion ce soir sur TF1 de la soirée des Enfoirés. Tous les bénéfices sont entièrement reversés à l'association. M. Pokora n'a pas participé au show cette année, mais il était déjà sur le terrain pour le lancement de la collecte. Hier, Hélène Terzian l'a rencontré.
Il n'y a pas de petits dons, même un petit paquet de pâtes, une petite conserve. Si tout le monde fait un petit geste comme ça, ce serait énorme déjà. C'est toute l'année que ça se passe, mais c'est sûr que le week-end des Enfoirés aide à mettre un coup de boost. On profite des projecteurs qui sont braqués sur nous de par notre métier pour les rediriger vers des nobles causes comme les Restos du Cœur. Et donc, c'est important pour moi d'aller sur le terrain, de voir comment les vrais warriors se débrouillent, les bénévoles, pour montrer qu'on pense fort à eux, que c'est eux les vrais warriors qui sont sur le terrain toute l'année. Et voilà, apporter ma petite pierre à l'édifice. Quand on sait l'importance des Restos du Cœur en France et les 130 millions de repas qu'ils distribuent, c'est incroyable.
Ça marchera jamais cette chanson.
Elle est très bonne celle-là.
C'est pas moi qui l'ai faite. Et je ne citerai pas celui qui l'a faite. Merci, c'était dommage. Le journal de Céline Kallmann.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre, le duo Dutheil Apathy. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
La politique avec vous, Jean-Michel Apathy.
Le cardinal Barbarin a fait appel hier de sa condamnation et en même temps il a démissionné de sa charge de cardinal de Lyon. Les voies cardinalesques semblent impénétrables, mais nous allons les éclaircir tout à l'heure.
Ouh là là, l'économie, Emmanuel Dutheil.
Ça creuse, mais on pourrait ne jamais voir le bout du tunnel pour le Lyon-Turin.
C'est joliment dit.
Bah oui, vous avez vu, on travaille.
Apathy Dutheil dans un instant sur Europe 1.
Excellente matinée sur Europe 1, il est 7h37. Il est 7h39, Pierre de Villeneuve. C'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Ouais, le cardinal Barbarin a fait appel hier donc de sa condamnation pour non-dénonciation d'agression dont étaient victimes des enfants. Ce sont des enfants, il faut le dire. Et dans le même temps, il a créé la surprise en démissionnant de ses fonctions d'évêque de Lyon. C'est un peu contradictoire, Jean-Michel Apathy.
C'est contradictoire et par optimisme, ce matin, on va retenir la bonne part du geste du cardinal Barbarin parce qu'en annonçant, de manière surprenante, vous l'avez dit, sa démission, le cardinal Barbarin reconnaît la souffrance des victimes. Une souffrance que l'Église a niée très longtemps, l'Église en général, et le cardinal Barbarin en particulier. Il y a donc une part d'humanité dans ce geste, et c'est ce qu'il faut retenir, à condition tout de même qu'il n'y ait pas une entourloupe derrière, parce que le cardinal a dit qu'il allait voir le Saint-Père dans les jours qui viennent, lui proposer sa démission. Le pape François peut refuser sa démission, mais ça ferait un salam alek Troisième République.
Ils se connaissent très bien, je crois.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais si le pape refusait la démission, ça ferait un petit arrangement, vous savez, retenez-moi sinon je m'en vais, oui. Je fais un malheur, et ça ne serait quand même pas bien, ça ne serait pas à la hauteur de la situation. Si le cardinal Barbarin démissionne, ça veut dire que la loi des hommes est supérieure à la loi de l'institution, de l'Église. Mmh. C'est assez rare, c'est un fait assez exceptionnel. Et peut-être faut-il voir, soyons encore optimistes, dans ce signe-là, parce qu'il y en a d'autres, quelque chose qui pourrait nous dire que l'Église est en train de se moderniser, est en train d'évoluer et elle en a besoin. Depuis l'après-guerre, l'Église s'est coupée d'une large partie de la population occidentale dont elle prétendait diriger les âmes, parce qu'elle a mal compris et elle a refusé l'individualisation de la société. L'Église s'est arc-boutée sur une vision traditionnelle de la famille. Elle a refusé l'idée du divorce, l'idée que les femmes puissent donner la vie quand elles le voulaient. Elle a refusé la possibilité à chacun de vivre sa vie selon sa sexualité. Et c'est une erreur grossière, colossale et stratégiquement accablante pour l'Église qui a beaucoup perdu de son influence parce qu'en 2019, on peut dire comme une banalité que l'on peut être divorcé et croyant, que l'on peut être homosexuel et croyant et que l'on peut être une femme qui a subi une interruption volontaire de grossesse et être croyante. Il y a un intérêt au-delà même de l'Église pour toute la société à ce que l'Église se modernise et comprenne mieux les populations occidentales. Parce qu'il y a aujourd'hui, en Occident comme ailleurs, une demande de spiritualité. Le matérialisme et le consumérisme ne sont pas des bornes pour beaucoup de gens. Et cette demande de spiritualité, d'autres religions peuvent l'offrir. Et si l'Église catholique n'est pas là pour aider ces gens-là, eh bien c'est une déficience pour l'ensemble de la société. Alors, par vision optimiste ce matin, donnons à la décision du cardinal Barbarin une dimension supplémentaire. L'Église est peut-être en train d'ouvrir les yeux sur le monde qui l'environne. Il faut le souhaiter pour l'Église et pour nous. Et pour cela, il faut que la démission du cardinal Barbarin la semaine prochaine soit effective et réelle.
Merci Jean-Michel Apathy. C'est presque une homélie. Hein, ce que vous nous avez fait.
C'est une homélie.
Voilà. Merci Jean-Michel Le Zoumeco. Avec vous Emmanuel Dutheil, l'Italie vient donc de porter un coup très dur au projet du TGV entre Lyon et Turin.
Oui, alors que ce projet avait pourtant été validé des deux côtés des Alpes, l'Italie revient sur sa parole d'une certaine manière. Rome a estimé hier soir qu'il s'agissait, je cite, d'une infrastructure dont l'Italie n'avait pas réellement besoin et appelle du coup à la révision du projet. La France, elle, a tout de suite réagi et se dit, là encore je cite, « convaincue de la pertinence de ce projet majeur pour les échanges entre les deux pays et pour l'Europe, c'est si joli ». Cette liaison ferroviaire est devenue en Italie un vrai sujet de friction politique au sein de la nouvelle majorité. Pour faire simple, la Ligue est pour, le mouvement 5 étoiles est contre. Ils estiment que ce projet, qui doit être financé par la France, l'Italie et l'Union européenne, est un gaspillage d'argent public.
Emmanuel, ce projet, il doit servir à quoi ?
Alors déjà, l'idée de ce projet date d'environ 30 ans et l'idée, c'est de désengorger la vallée du Rhône. Le but est en effet de transférer au train une grande partie du transport aujourd'hui réalisé en camion. Il doit y avoir aussi bien évidemment des trains pour les passagers. Le chantier le plus important consiste en la création d'un tunnel international de 57 km entre les villes de Saint-Jean-de-Maurienne en France, et pardonnez-moi, je ne sais pas très bien comment on prononce en italien, Suse, en Italie. Les trains devraient y rouler à 220 km par heure. Rien que la construction de ce tunnel est estimée à environ 8 milliards d'euros et l'ensemble du projet a été chiffré à 26 milliards. La construction devait prendre approximativement 10 ans et la mise en service de cette liaison était prévue sur le papier à l'horizon 2030. Mais ce qui est quand même complètement fou dans ce dossier, c'est que les travaux ont déjà commencé. Concrètement, on est déjà en train de creuser. Des centaines de millions d'euros ont déjà été engloutis et les opposants au-delà de l'Italie sont extrêmement nombreux.
Mais qu'est-ce qu'on en dit du côté de la SNCF ?
Eh bien là aussi, ça va peut-être vous étonner, mais Guillaume Pépi, quel patron de la SNCF, ne veut pas de cette nouvelle ligne. En tout cas, il estime qu'elle n'est pas utile. Selon son entourage, ce n'est pas possible de rentabiliser une telle ligne. Pourquoi ? Eh bien notamment parce que, comme je viens de vous l'expliquer, ce projet est tellement coûteux que c'est totalement impossible de la rentabiliser. Donc du côté de la SNCF, on le dit, sans détour dans les couloirs. Aujourd'hui, chaque nouvelle ligne de TGV casse d'une certaine manière le modèle du TGV. Ils doutent aussi des prévisions de trafic, tout comme les Italiens. La grande vitesse devrait être réservée aux lignes rentables, dit-on du côté de la SNCF. Et puis sur de telles distances, il y a quand même aujourd'hui la concurrence des avions et notamment des low cost sur des lignes comme Lyon-Turin. Avec le prix des péages, la SNCF ne pense pas pouvoir être compétitive. Donc un grand doute sur l'avenir de ce projet.
Et pendant ce temps, on continue de creuser.
On continue de creuser.
Tout va bien. Tout va bien, on continue de creuser. Merci.
Il y a des subventions européennes, il faut bien les justifier.
C'était le Zoom Echo d'Emmanuel Duteil.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, je reçois une combattante, triple championne du monde de karaté, 7 fois championne d'Europe. Laurence Fischer est mon invitée à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, puisqu'on va parler de son engagement, son association Fight for Dignity, qui œuvre pour aider les femmes vulnérables et victimes de violences à se reconstruire par le sport notamment.
Il est 7h45, à tout de suite sur Europe 1. Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Pierre Deville.
Le cardinal Barbarin va présenter sa démission au pape après sa condamnation. Hier, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de mauvais traitements. Mehdi Nemmouche, déclaré coupable par la justice belge de 4 assassinats terroristes lors de la tuerie du musée juif de Bruxelles, c'était en mai 2014. Il risque la perpétuité, sa peine sera connue lundi. En Algérie, d'énormes manifestations sont attendues aujourd'hui pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle du 18 avril prochain. Football, Rennes a créé la sensation hier en dominant Arsenal 3-1 pour le 8e de finale aller de la Ligue Europa. Et puis la météo éclaircie sur les 2/3 de la France, température de 10 à 19 degrés, 10 à Langres, 13 à Paris, 19 degrés à Nice.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Pierre de Villeneuve, en cette journée pour les droits des femmes, vous recevez l'ancienne karatéka Laurence Fischer.
Triple championne du monde de karaté. Bonjour Laurence Fischer.
Bonjour.
Dites-moi, ça vous énerve qu'on doive faire des journées pour les droits des femmes et pour que ces droits soient appliqués ?
Oui, c'est un peu énervant, effectivement. Ça devrait être...
Inné ?
Absolument. C'est tout le temps. Et malheureusement, c'est un combat encore
nécessaire.
Nécessaire, oui, absolument.
Indispensable. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de votre association, Fight for Dignity, se battre pour la dignité, vous défendez à votre façon les femmes victimes, sachant que les violences faites aux femmes sont en constante augmentation.
Oui, effectivement, c'est assez terrible, c'est un triste constat. Et l'association, en fait, nous, par le biais du sport, un sport accessible et adapté, on le propose aux femmes traumatisées suite à des violences.
Comment on fait pour justement s'emparer de problèmes aussi graves, de dossiers aussi compliqués ?
C'est un travail d'équipe, ça se co-construit, ça a commencé en RDC avec le docteur Denis Mukwege qui est maintenant
au Congo, donc,
voilà,
ouais.
Au Congo qui est prix Nobel de la paix depuis octobre dernier, et ça a commencé sur ce qu'il y a de plus atroce, c'est le viol utilisé comme arme de guerre. C'est ce qui se passe dans son pays, et en réaction au bout de 10 ans de reconstruction de ces femmes, il a mis en place la maison d'Orcas. C'est un lieu innovant où les femmes sont accueillies en
qui
convalescence.
Se trouve où, du coup ?
Au Kivu, oui. dans l'est du pays, mm-hmm. à la frontière du Rwanda et du Burundi. Et donc, dans ce lieu, les femmes ont accès à beaucoup de soins. Ce sont les plus vulnérables, elles ont entre 12 et 18 ans. Elles ont l'enfant issu du viol.
12 et
oui.
18 ans.
Oui, elles ont soit le sida, l'enfant issu du viol, l'opération a mal fonctionné, donc elles sont toujours incontinentes. Elles ont, psychologiquement, ça se passe très très mal. C'est vraiment les plus vulnérables. Elles ont été rejetées par la communauté, elles sont orphelines, et dans ce cadre-là, le docteur met en place un accompagnement global, c'est-à-dire qu'elles ont accès à du juridique, au planning familial, au médical, au psychologique, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes pour les amener à une certaine autonomie, et aussi à une inclusion. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler avec ces jeunes femmes, et
Et c'était quoi le déclic, pardonnez-moi? Vous avez fait un voyage là-bas?
En fait, le docteur est intervenu dans le cadre du Forum mondial des femmes francophones en 2013. Ouais. Et il a témoigné de son travail. J'étais bouleversée. Et je ne savais pas que le viol pouvait être utilisé comme arme de guerre, donc de manière méthodique. Et j'avais été peu de temps avant au Burundi. Et une des personnes avec qui j'étais au Marathon de la Paix travaillait chez le docteur. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a décidé avec une ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, Marie-Josée Lallard, d'aller sur ce site.
Alors, et concrètement, votre action, puisque rappelons quand même cette donnée qui, moi, m'a terrifiée, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Pour la situation française.
Oui.
Une fois par semaine, votre salle de karaté en Seine-Saint-Denis se transforme en maison des femmes. Ça veut dire, on arrive le matin, on fait quoi ?
Eh bien, en fait, c'est une fois par semaine, c'est très important,
oui,
la pratique. Et oui, pardon, voilà, ça c'est un point extrêmement important parce que ça montre une certaine régularité. Chose que les femmes sont en difficulté souvent d'avoir cette régularité, même parfois pour avoir suivre des soins extrêmement importants. On a un public ici qui sont effectivement des femmes victimes de violences, mais aussi qui ont excision, qui sont réfugiées, qui ont fait tout ce parcours où elles ont été aussi peut-être violées. Mmh. Et donc, quand elles arrivent, elles sont recommandées par les soignants. Elles viennent.
Elles sont combien ?
Elles sont une dizaine.
Oui.
Une dizaine.
Ce qui permet quand même de faire un travail correct, parce que s'ils étaient 50, évidemment, c'était plus compliqué.
Oui, c'est vrai que c'est un vrai travail d'orfèvre, de dentelle, parce que c'est vraiment, je suis en attente, parce que chaque femme est pas.
Oui.
Et à son.
Et vous êtes chef d'équipe et vous avez une équipe autour de vous, évidemment.
Alors, lors des séances, je mène la séance seule, mais effectivement, derrière, au niveau de l'association, on est vraiment toute une équipe. Je ne sais pas si j'ai la première question, mais on est vraiment, oui, parce qu'on a besoin de. Enfin, on est une petite équipe, mais on a besoin d'être.
Et revenons à cette séance de travail. Donc, on arrive, on se met en kimono, on fait du karaté.
Voilà, exactement. On met à disposition les kimonos, on leur offre une ceinture, si elles la veulent, elles peuvent la laisser, la repartir avec.
C'est un petit symbole.
C'est un symbole, la ceinture blanche de débutant. Et on commence par vraiment, c'est un travail de sensation, de respiration, de décontraction. La partie karaté.
Et ça, c'est nouveau pour elle.
Pour beaucoup, en fait, c'est simplement l'idée, c'est qu'elles se réapproprient leur corps.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire qu'en fait, elles prennent conscience de leur. Le corps a été une source de souffrance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles le voient sous un angle différent et que parfois, il peut y avoir du déni ou un rejet de ce corps parce qu'il a été vraiment source de souffrance. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en sensation, on essaie de leur faire vivre l'instant, d'être au présent, d'être là maintenant, et du coup on va être en contact aussi avec l'autre puisqu'on travaille ensemble par le regard, on fait des exercices de toucher, et ça fait partie de l'échauffement, c'est nommer les différentes parties du corps, et à la fois c'est à la fois aussi ludique, c'est convivial, et une fois qu'on travaille beaucoup sur la base du périnée aussi, les muscles périnéaux, par la respiration aussi, et tout est centré, parce qu'on karaté le hara, l'énergie était aussi ici. Et donc tout est basé sur ce travail de décontraction, que ce soit en début de séance, en fin de séance, on finit par une petite séance de méditation. Et au milieu, on fait du karaté. Ça veut dire qu'on fait des coups, ce sont des fondamentaux. Coup de poing, coup de pied, on pousse des cris, ce qu'on appelle le kiai. C'est aussi une manière pour les femmes, pour la colère qu'elles peuvent ressentir, pour ces émotions, de se décharger.
Chaque cas est différent, mais il faut combien de temps pour aller mieux ?
Ah, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'a vécu la femme, de là où elle en est dans son parcours. Il faut savoir qu'elle travaille une étroite collaboration aussi. Elle est accompagnée de la Maison des Femmes de Saint-Denis, créée par le docteur Ada Hatem. Je tiens vraiment à saluer parce que c'est grâce à elle que ce lieu existe. C'est par exemple la psychologue qui va recommander la femme de venir. Donc suivant son parcours, là où elle en est, c'est à chaque fois c'est différent. Donc elle peut venir 2 mois.
Ça peut prendre
une fois,
des mois ou des années.
Exactement. Mmh. Ça dépend de son vécu.
Vous avez reçu le soutien de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et aujourd'hui, ce 8 mars, vous lancez pour Fight for Dignity une opération de crowdfunding, de financement productif. Vous avez besoin d'argent. Comment est-ce qu'on peut vous aider ?
Eh bien, il suffit, c'est assez simple, il suffit d'aller sur la plateforme Ulule. Et là, vous allez voir tout vous sera bien expliqué. Vous aurez le temps de lire aussi, de comprendre. On a de très forts besoins parce que la structure est très jeune au niveau de son entité, de la construction. Mais aussi, on a lancé une recherche-action pour mesurer l'impact de la pratique du karaté et aussi pour, on espère, faire de la formation de formatrice pour pouvoir ouvrir s'inscrire ailleurs en France et continuer aussi en RDC la pratique, parce qu'en RDC, c'est les survivantes qui vont enseigner. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de soutien.
Eh bien, merci beaucoup et bravo pour votre action. Laurence Fischer, Fight for Dignity. Voilà cette association qui reçoit le soutien du ministre des Sports et qui, bien sûr, suscite l'admiration. Merci encore.
Oui, si vous souhaitez réagir, hein, vous pouvez nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et Marie, qui reprend vos mots, hein, Laurence Fischer, les droits des femmes seront vraiment reconnus quand plus personne n'aura besoin d'une journée pour s'en rappeler. Continuez à réagir. Hashtag Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre, bien sûr, dans le journal de 8h, on reviendra sur les Restos du Cœur qui lancent leur grande collecte nationale pour l'été. Puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Est-ce que vous lisez en détail tous vos contrats d'assurance jusqu'à la dernière ligne? Eh bien, ça peut vous rapporter gros.
A tout de suite sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il est 7h55. C'est l'heure de la petite histoire du jour, Pierre.
Jean-Philippe Ballas, vous savez quoi ce matin? Vous nous dites que bien lire un contrat, ça peut rapporter gros.
Bah oui, que voulez-vous? Elle est comme ça, Donelan Andrews. Elle aime bien que tout soit clair, carré. Par exemple, avant de signer le moindre contrat, cette enseignante américaine de 59 ans prend le temps systématiquement de tout bien lire. Chaque ligne, chaque paragraphe, même écrit en tout petit, même les astérisques, même en italique. Bref, toute cette masse d'austère littérature que, personnellement, je survole souvent en diagonale et encore, pas toujours droite, la diagonale. Mais revenons à Donelan qui s'intéresse ce jour-là à une assurance voyage. C'est donc tout naturellement qu'elle épluche chaque terme du contrat jusqu'à la dernière page. Et là, il y a un truc bizarre. Il est écrit, si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes l'un des très rares clients, moins de 1%, à étudier toute la police d'assurance. Il y a une adresse mail, Donelan écrit, et c'est le jackpot. Eh oui, Donelan Andrews vient de gagner 10 000 dollars, les amis. Ah ouais. Tout ça parce qu'elle a été la première à lire son contrat d'assurance dans son intégralité. C'est une belle opération de com' pour la compagnie qui veut justement alerter les autres clients, disons plus désinvoltes comme vous et moi, éviter les malentendus et les mauvaises surprises. Le plus cocasse, c'est que Donelan Andrews faisait un peu la même chose à une époque avec ses étudiants. Elle glissait dans les questionnaires des formules du type « Si vous lisez cette phrase, vous gagnez 2 points et vous sautez une question. » Et oui, histoire d'encourager les élèves à lire attentivement l'énoncé des problèmes. C'est important. Alors certes, Donelan le confesse, ses amis l'ont toujours trouvé légèrement différente, mais vous savez quoi, finalement, ça sert dans la vie d'être un peu maniaque.
Maniaque. Merci Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour.
À suivre le journal de Sébastien Krebs, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo, Pierre.
C'est peut-être un petit mot, hein, Laurent Cabrol, ouais, parce qu'on n'a pas très bien compris ce que vous vouliez dire tout à l'heure.
Ah, à propos des villes, les femmes sont considérées comme les plus belles. Oh, c'est une plaisanterie des réseaux sociaux. Alors, je me suis permis de reprendre ces réseaux sociaux, j'aurais dû ajouter LOL. C'est vrai que beaucoup de gens ont réagi en disant « Oui, mais pour qui, machin, ça ?» Vous savez, la beauté des femmes, c'est mon point de vue. Mmh. C'est comme celle du ciel, chacun a la sienne.
Merci Laurent. Maintenant, la vraie météo.
Si vous aimez le soleil, si vous aimez la beauté, les Alpes et le bassin méditerranéen, il fera beau. Si vous aimez le ciel gris, on peut l'aimer. Les Landes, le Midi-Pyrénées, la vallée de la Garonne, le Massif central, le Mâconnais, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et le Rhône, où là nous aurons un temps pluvieux, mais qui va se dégager dans le courant l'après-midi pour donner raison aux éclaircies qui prendront le terrain et qui occuperont le terrain. Sous le nord, la Lorraine, le centre, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes et la Picardie, un ciel voilé, très nuageux. Mais la nuit prochaine, il pleuvra dans ces régions, mais il ne pleuvra pas dans la journée. Sur Paris, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. En Bretagne, de la pluie, mais cet après-midi et ce soir seulement. Les températures entre 11 et 18 degrés.
Merci Laurent Cabrol.
Bienvenue sur Europe 1 en ce vendredi 8 mars. Et bon réveil dès 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
8h, le journal Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour.
Un rancard à ceux qui n'ont plus rien. Il y a 33 ans, Coluche lançait sur Europe 1 ses Restos du Cœur. Aujourd'hui, les enfoirés sont toujours plus indispensables. Concert diffusé ce soir et grand week-end de collecte dans les supermarchés. Le sort du cardinal Barbarin entre les mains du pape François. Nous irons au Vatican où l'archevêque condamné hier est attendu pour remettre sa démission au souverain pontife. À suivre également, plongé dans le quotidien d'une prison passoire où toutes sortes d'objets entrent sans contrôle. Les personnels pénitentiaires toujours mobilisés pour réclamer plus de sécurité. La lutte contre les violences conjugales au cœur de la 42e journée pour le droit des femmes. Vous verrez comment un chat sur internet peut aider à libérer la parole. Et puis troisième vendredi de mobilisation en Algérie, le président Bouteflika met en garde les contestataires dans un message écrit.
8h12, Vincent Hervouet, la Corée qui fait 3 pas en arrière. Et puis 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique.
Europe 1.
C'était une petite idée comme ça, lancée au micro d'Europe 1 en 1985. Coluche aurait sans doute aimé que son concept ne soit plus nécessaire 33 ans après, mais c'est bien le contraire. Désormais, les Restos du Cœur restent ouverts toute l'année. Les bénévoles lancent ce week-end leur grande campagne de collecte de denrées alimentaires. Vous les verrez à la sortie de votre supermarché. Ils espèrent en rassembler 8000 tonnes. Hélène Terzian les a suivis.
Chasuble rose sur le dos, les bénévoles des Restos du Cœur accueillent les clients à l'entrée du supermarché.
Nationale des Restos du Cœur.
Objectif, les retrouver après le passage en caisse.
Vous voulez qu'on vous aide, madame ?
Jennifer arrive le caddie rempli. Elle vient de dépenser plus de 30 euros pour l'association.
Je suis en train de déballer les produits que j'ai achetés pour les Restaurants du Cœur. Des choses qui pourraient se garder. Du café, du thé, chocolat, 2 boîtes de tomates, 3 boîtes de thon. J'aide cette association par ailleurs, mais je trouve que c'est une excellente initiative. Il faut penser aux autres.
Les Restos du Cœur espèrent récolter 8000 tonnes de denrées alimentaires, de quoi préparer 8 millions de repas, mais aussi des produits d'hygiène. Et Marie, bénévole, insiste, il faut aussi des produits pour bébés.
Au resto, aujourd'hui, on accueille énormément de mineurs. On a aussi des structures qui accueillent spécifiquement les mamans et les bébés jusqu'à 1 an. Et on sait que tout ce qui est hygiène bébé, couches, les premiers âges, petits pots, petits shampoings, en fait, sont des choses assez chères. Donc c'est vrai qu'on le signale particulièrement sur les produits bébés.
Ces produits, une fois collectés, sont ensuite triés, stockés dans un entrepôt avant d'être distribués cet été.
Hélène Terzian pour Europe 1. Et c'est aussi ce soir que sera diffusé le grand concert des Enfoirés sur TF1 avec comme petit nouveau sur scène un certain Kylian Mbappé. Tiens. Les CD et DVD seront en rayon dès demain. Chaque vente permet de financer 17 repas au Resto du Cœur.
Dans l'actualité également, Sébastien Krebs, le cardinal Barbarin, condamné hier, est attendu au Vatican.
Condamné pour ses silences face à la pédophilie, l'archevêque de Lyon va mettre son sort entre les mains du pape François. Il doit lui remettre sa démission en personne dans les heures qui viennent ou dans les tout prochains jours. Et dans un contexte de tolérance zéro au Vatican, la décision du souverain pontife sera particulièrement scrutée. Blandine Dugonnet à Rome pour Europe 1.
Depuis le début du procès Barbarin il y a 3 ans, le pape François n'a cessé de soutenir le cardinal français. Mais aujourd'hui, il va devoir trancher entre 2 options, refuser ou accepter sa démission. Mais le pape est attendu au tournant sur cette affaire. D'abord parce que depuis 1 an, le souverain pontife a déjà accepté 10 de démissions des évêques et des cardinaux liés à des affaires d'abus sexuels au Chili et aux États-Unis. Mais c'est surtout que depuis le sommet historique sur les abus sexuels il y a 2 semaines, le Vatican se targue de vouloir appliquer la tolérance zéro. Accepter la démission du cardinal Barbarin, prima de Gaulle, aux représentants de l'Église de France condamnés pour son silence. Ça serait donc un signe fort et concret de la part du chef de l'Église catholique. D'autant que jusqu'à maintenant, il reste très rare de voir le pape prendre les devants et destituer de lui-même un responsable de l'Église pris dans un scandale de pédophilie. Rome, Blandine Hugonnet, Europe 1.
À Bruxelles, on connaîtra aujourd'hui la peine prononcée par la cour d'assises à l'encontre de Medine Emouch. Les jurés l'ont d'ores et déjà déclaré coupable de l'attentat du musée juif. 4 assassinats, ils ont balayé la thèse complotiste avancée par l'accusé. Et puis cette affaire de pédophilie dans l'intimité d'un cercle familial, ça se passe dans l'Isère. 7 personnes sont mises en examen pour des viols et agressions sexuelles commis sur une fratrie des enfants de 4, 7 et 10 ans. La mère, le beau-père, l'oncle, la grand-mère et 3 autres personnes ont été placées en détention provisoire.
Europe 1 du 8h04.
Une nouvelle journée d'action des gardiens de prison aujourd'hui.
La colère ne retombe pas. Tous les syndicats appellent à une mobilisation massive aujourd'hui. Les personnels pénitentiaires réclament davantage de moyens de protection, des fouilles élargies et évoquent des prisons passoires où toutes sortes d'objets peuvent entrer en échappant à tout contrôle. C'est le cas à la pourtant très récente prison de Nantes où s'est rendu François Coulon.
C'est une maison d'arrêt flambant neuve de 2012 et pourtant une prison passoire où l'essentiel des objets interdits tombe du ciel. Les saisies de l'an passé donnent le vertige à Daniel Joliet, syndicat UFAP-UNSA.
850 téléphones portables, 10 kilos de drogue, des couteaux céramiques, on en a trouvé 6. Demain, un détenu qui a de très très mauvaises intentions peut tout à fait se faire projeter une arme, y compris les explosifs.
Alors c'est très facile de s'approcher au plus près des murs d'enceinte de 6 mètres de haut. Il y a juste à franchir un grillage avant de cibler les 4 cours de promenade. Les lanceurs sont payés 50 euros par envoi. William Kozik, force ouvrière.
Le week-end dernier, 60 projections entre le samedi et le dimanche. On est totalement impuissants. Nos collègues des Miradors, ils font que compter les projections. Ils viennent par dizaines des fois et c'est infernal. Du jour au lendemain, il suffit qu'un détenu parte dans une idée de tuer et puis on pourra juste compter les blessés ou les morts.
Seule solution pour mettre un coup d'arrêt à ce gros trafic, l'installation de filets métalliques au-dessus des cours de promenade. C'est cher, 800 000 euros. Il faudra attendre décembre 2021 pour la pose. Nantes, François Coulon, Europe 1.
La politique et le débat sur le retour de l'ISF n'aura pas duré bien longtemps. C'est l'une des grandes revendications des Gilets jaunes. Elle était portée hier par des députés communistes à l'Assemblée. Fin de non-recevoir, les députés ont rejeté leur texte avant même l'examen des amendements. Il n'y aura pas de grand soir fiscal, a dit Édouard Philippe. Le Premier ministre plaide pour une refonte uniquement des impôts locaux. Il s'est invité hier soir dans une réunion publique dans l'Essonne, organisée dans le cadre du grand débat.
Europe 1.
À suivre dans votre journal, Sébastien Krebs, la journée internationale pour le droit des femmes et des robots à la rescousse pour recueillir la parole des victimes de violences. À tout de suite.
Il est 8h08, c'est votre matinale info, Pierre Devineau.
Et la suite du journal avec Sébastien Krebs. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes.
Des rassemblements sont prévus aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes, avec pour mot d'ordre l'égalité professionnelle et la lutte contre les violences conjugales. Depuis le 1er janvier, 30 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est un chiffre en augmentation. Le nombre de plaintes pour harcèlement et agression sexuelle a lui aussi bondi dans le sillage du mouvement MeToo. La parole se libère, mais parce qu'il est parfois trop difficile de parler, des associations viennent de créer sur Internet un chat, une messagerie ouverte aux victimes. Et c'est un robot qui leur répond. Explication avec Marguerite Lefebvre.
Seul en face d'un ordinateur, moins intimidant qu'un tête-à-tête. Une simple page à ouvrir sur Facebook et le chat débute. C'est Alexia Leron qui a fondé l'association etc.
Le robot va se présenter en quelques mots. C'est le robot qui va poser une série de questions. Il va y avoir un panel de réponses prédéfinies. Ça va se dérouler comme ça automatiquement jusqu'à ce que le robot puisse comprendre quelle est la violence qui a été subie par la jeune femme.
Agression sexuelle, harcèlement, mettre des mots sur les violences subies pour ensuite se faire aider, c'est l'objectif de ce robot. Simplifier le premier pas qui est souvent le plus compliqué pour les victimes. Deux bureaux plus loin, Louise Delavier pianote sur son clavier.
Là j'ai un cas assez classique de photos volées.
Avec son association En Avant Toutes, elle a fondé le tout premier chat destiné aux femmes victimes de violences.
C'est parfois plus facile quand on a envie de pleurer, qu'on a la boule dans la gorge, de pouvoir parler par écrit. Aussi parce qu'on ne voit pas la personne, qu'on se sent beaucoup moins jugé et parce qu'on se sent beaucoup plus anonyme.
Un canal de discussion à destination des plus jeunes qui fonctionne, si bien que le gouvernement a également décidé il y a 6 mois de lancer son propre chat, géré par des policiers et des gendarmes spécialisés.
Marguerite Lefebvre. Et puis au moment où beaucoup de femmes craignaient un report de la loi généralisant l'autorisation de la PMA, la procréation médicalement assistée, la secrétaire d'État Marlène Schiappa promet ce matin dans le journal Le Parisien, qu'elle sera bien à l'agenda du Parlement avant l'été. Aux États-Unis, l'étau judiciaire se resserre sur l'entourage de Donald Trump. Son ancien directeur de campagne a été condamné cette nuit à 47 mois de prison pour des fraudes fiscales et des malversations mises au jour dans l'enquête sur ses liens avec la Russie. Le Venezuela dans le noir complet, gigantesque panne d'électricité à Caracas et dans tout le pays hier soir. Les coupures de courant sont légion, mais jamais de cette ampleur. Sans donner plus d'explications, le gouvernement de Nicolas Maduro dénonce une attaque criminelle sur une centrale et parle de guerre de l'électricité. Et puis en Algérie, c'est moi ou le chaos. Voilà en substance le message d'Abdelaziz Bouteflika diffusé dans un communiqué de l'agence officielle. Le président algérien évoque une conspiration et met en garde son peuple au moment où justement un nouveau vendredi de contestation est attendu dans les rues du pays. Jean-Sébastien Soldaini.
Le message tient dans une simple lettre, lue en son nom par sa ministre des Télécommunications au cours d'une cérémonie officielle. Quelques mots qui semblent à contre-courant où le président algérien félicite ses concitoyens pour leur maturité avant d'ajouter que le pluralisme démocratique en Algérie est désormais une réalité palpable. Des mots qui sonnent comme une provocation pour Maria, étudiante de 19 ans.
Ils veulent nous faire croire qu'ils nous comprennent, ils veulent nous faire croire qu'ils sont fiers de leur peuple. Donc ils essayent de faire croire que le peuple est entendu et que c'est grâce à eux, en fait, entre guillemets, que nous avons cet éveil des consciences, alors que absolument pas. Ils veulent juste inciter à la haine, ils veulent juste, en fait, nous pousser à agir par colère.
Le président algérien ne s'arrête pas là, il met en garde contre des infiltrations du mouvement par des puissances étrangères. Elles pourraient susciter la fitna, dit-il, le désordre ou la guerre civile en arabe. Des mots lourds de sens en Algérie et qui choquent d'autant plus ses opposants, car ils ne sont pas directement prononcés par le chef de l'État. Des mots qui laissent une nouvelle fois chez les manifestants l'impression d'un manque de respect d'Abdelaziz Bouteflika envers sa population.
Jean-Sébastien Soldat. Daini. Le football et le Stade Rennais qui est forcément prévenu, ne jamais crier victoire trop vite. On a vu le PSG, mais Rennes a tout de même pris une belle option sur une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa hier soir. 3-1, victoire face à Arsenal. Match retour dans une semaine, jeudi prochain.
Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale à présent avec Vincent Hervouet.
Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à tous.
Les Nord-Coréens ont reconstruit le site de fusée qu'ils avaient démonté après le sommet de Singapour et Donald Trump est très déçu.
Le site de lancement de Soe est bien connu sur la côte nord-ouest. Les fusées servent de paravent. L'important c'est qu'il peut lancer des missiles balistiques. Les Nord-Coréens en ont, capables de porter une bombe jusqu'en Californie. Est-ce qu'ils ont réussi à miniaturiser leurs armes nucléaires pour en farcir l'engin? La question est bonne. Les réponses varient. Les installations sont sous l'œil du renseignement américain, avec des images satellites claires et nettes. C'est donc sciemment que les Nord-Coréens avaient démonté le pas de tir au lendemain du sommet de Singapour, une sorte de gage, et ils ont délibérément relancé le chantier au lendemain du sommet de Hanoï. C'est la preuve de leur dépit et un défi à la diplomatie américaine. Bref, ils font la tête. Ils auraient pu faire pire, claquer la porte en tirant un missile au-dessus de la tête des Japonais, briser toute la vaisselle en faisant un nouvel essai nucléaire, reconstruire le site de Soe. C'est une scène de ménage de basse intensité. Mais Donald Trump et Kim Jong-un ont tellement mis en scène leur rencontre improbable, leur coup de foudre, cette amitié soudaine et maladroite, qu'on dirait qu'ils s'y sont laissés prendre. En voyant les photos, Donald Trump a joué l'incrédulité. Il a dit qu'il attendait confirmation et avoué qu'il serait très, très triste, très, très déçu par Kim, si c'était vrai. On comprend sa déception. C'est le prix Nobel de la paix dont il rêve qui vient de s'évanouir. Et c'est d'autant plus injuste que Barack Obama l'a eu sans avoir rien fait.
Donc, ce qui veut dire que les négociations pour la dénucléarisation ont échoué.
Ça veut dire que le sommet de Hanoï est un échec, il y en aura d'autres. Ils n'ont pas réussi à trouver un engagement fort. Les Nord-Coréens voulaient marchander la levée rapide des sanctions, notamment sur le pétrole et sur le charbon, ce qui sera compliqué parce qu'elles dépendent des Nations Unies. Les Kim ont mis 40 ans à se doter de l'arme nucléaire, ils voudront en mettre autant à s'en débarrasser. C'est leur assurance vie. Ils voient la dénucléarisation comme un horizon, comme l'était le désarmement américano-soviétique qui a continué malgré les crises ouvertes et les petites guerres périphériques. Alors que les Américains veulent un démantèlement total, irréversible, contrôlé des capacités nucléaires, et ça rapidement. Bref, ils ne parlent pas de la même chose. C'est pas trop grave tant qu'ils continuent à se parler. Mais c'était pas une si bonne idée que ça de se retrouver à Hanoï. Le Vietnam ne porte pas chance aux Américains.
Merci, c'était Vincent Hervouet sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Eh bien écoutez, le grand débat se termine dans une semaine. Pour l'instant, on ne voit pas bien ce qui va en ressortir et apparemment le gouvernement non plus. Peut-être allons-nous y voir plus clair ce matin. Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à l'écologie et co-animatrice de ce grand débat, sera mon invitée.
À tout de suite.
Il est 8h17, Pierre de Villeneuve.
La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Emmanuelle Wargon.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Alors hier, vous animiez avec le président un débat sur l'écologie, mais l'écologie est loin de tenir la première place parmi les préoccupations des Français, d'après les premiers retours de cette grande consultation nationale. Ça vous déçoit ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, quand on regarde les contributions, notamment sur le site, elles sont assez équilibrées. Le premier thème, c'est la fiscalité et les dépenses, mais l'écologie arrive juste après. Et puis, pour participer à beaucoup de débats, j'en entends très souvent parler. Et puis, la deuxième chose positive, c'est que ce sont les jeunes qui en parlent.
Ouais. Alors, d'un côté, des Français qui sont d'abord préoccupés par leur pouvoir d'achat, et de l'autre, un président qui recadre le mois dernier avec François Drugy, ici même. Vous avez pris la défense de la taxe carbone en affirmant qu'elle devait revenir dans le débat. Et le président vous a immédiatement recadré en disant que c'était hors de question.
En fait, je crois qu'on est tous d'accord sur un point qui est on a besoin d'argent pour financer la transition écologique. Et on a besoin d'argent public et privé. Après, la taxe carbone, c'est un levier, et ça n'est pas le seul. La taxe carbone a un avantage, c'est que si on l'améliore. Et si on en affecte la totalité des recettes à la transition écologique, on garantit une visibilité pour financer cette transition. Mais le président et le premier ministre ont dit, et je crois qu'ils ont raison, on ne va pas sortir d'une crise qui a commencé avec un impôt en sortant avec un nouvel impôt. Donc ça pose la question de la remise à plat globale de la fiscalité, et celle-là, elle est sur la table.
Donc on ne remet pas sur la table la taxe carbone et une éventuelle hausse. C'est exclu.
En tout cas, pas d'augmentation globale d'impôt, ça n'a pas de sens. Une fiscalité organisée complètement différemment, dans laquelle on pourrait aller vers un principe équitable de pollueur-payeur et dans lequel on irait aussi taxer tous les pollueurs, y compris les gros pollueurs, ça a un sens.
Alors dans sa tribune sur l'Europe, Emmanuel Macron affirme que l'Europe doit se fixer l'objectif zéro carbone pour 2050 et en même temps il refuse le débat sur la taxe carbone. Ce ne serait pas contradictoire ?
Ah non, c'est pas contradictoire du tout. D'abord, la France s'est fixé un objectif zéro net carbone en 2050, c'est-à-dire une division par 8 de nos émissions carbone et le reste en compensation, c'est-à-dire en capacité à stocker du carbone essentiellement dans les sols. C'est le développement de l'agriculture, de l'agroécologie et de la forêt. L'Europe est en train de se doter d'un objectif pour 2030, une réduction d'environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est est-ce qu'on peut se projeter plus loin collectivement ? Après, ça ramène à la question, pour tout ça, il faut de l'argent. Et dans sa tribune, le président propose plus d'investissements sur le climat, peut-être avec une nouvelle banque ou autrement.
Emmanuel Wargon, le grand débat alors, doit finir pile dans une semaine. Mais Emmanuel Macron a encore 4 régions à visiter. Vous croyez qu'il va falloir jouer les prolongations, qu'il va falloir reporter la fin du grand débat ?
Ça finit pas exactement dans une semaine. En fait, ce qui se termine actuellement, ce sont les réunions locales. Elles se terminent le 15 mars et les Français ont jusqu'au 18 mars pour remonter leur compte-rendu de réunion sur la plateforme ou pour contribuer sur la plateforme et après ça s'arrête. Et les cahiers citoyens sont déjà fermés, ils sont en cours de numérisation et d'archivage et donc pour traitement par la Bibliothèque nationale de France. Ce qui continue après le 15 mars, ce sont ce qu'on appelle les conférences régionales citoyennes, 2 week-ends d'affilée. 16-17 mars et 22-23 mars, entre 80 et 100 personnes tirées au sort dans chacune des régions en France et en métropole pardon et en Outre-mer, et une conférence pour les jeunes qui commence à débattre et à structurer des propositions. Et enfin, un débat parlementaire, un à l'Assemblée, un au Sénat, dans les tout premiers jours d'avril.
Et alors, comment toutes ces heures de discussion dans les débats, comment tous ces cahiers de doléances, et à combien on en est d'ailleurs, et combien de contributions numériques, et comment tout ça va être traité ?
Alors, beaucoup de matières. On pensait avoir environ 10 000 cahiers dans des mairies, en fait on en a 16 000. Sur le site, on a 1,4 million de contributions, 1 million de réponses aux questions dites rapides et 400 000 contributions aux questions plus ouvertes. Tout ceci est traité par 2 équipes. L'équipe qui traite tout ce qui est arrivé sur la plateforme, c'est Opinionway qui s'en occupe, et une autre équipe avec un consortium qui traite tout ce qui est plus qualitatif dans les cahiers et dans les courriers. On a aussi reçu beaucoup de courriers pour faire une présentation globale, synthétique, exhaustive de ce qui s'est dit avec les principales propositions, probablement autour de quelque chose qui ressemblera à un arbre de connaissances, c'est-à-dire une arborescence de ce qui s'est dit par thème, par sous-thème, etc.
Ça prend combien de temps tout ça ?
On aura tout ça au tournant de fin mars, début avril.
L'idée d'un référendum le jour des européennes, le 26 mai, serait toujours sur la table. Vous confirmez ?
Je confirme qu'on ne préempte aucune décision maintenant, que toutes les idées sont sur la table, y compris un référendum, y compris un référendum le jour des européennes.
Vous en auriez parlé mercredi soir lors d'un dîner secret à l'Élysée.
Il y a eu un dîner à l'Élysée, et je n'en dirai pas plus sur ce dîner, mais en tout cas, toutes les idées sont bien sur la table. Le président veut se donner du temps avant de décider. Et tous ces débats organisés localement, je reviens au débat d'hier, qui était un débat à 5 heures sur la transition écologique, sur l'écologie, sur l'environnement, sur la nature, c'est aussi le moment où il affine ses convictions.
Donc en tout cas, vous dites aujourd'hui, l'idée d'un référendum le jour des élections n'est pas exclue.
Je dis rien n'est exclu.
Rien n'est exclu. Et si ce n'est par un référendum, comment comptez-vous sortir du grand débat et quand ?
Le président s'est exprimé hier sur le sujet. Il a dit qu'on aurait à la fois des mesures très concrètes à la sortie du grand débat, mais probablement aussi des sujets sur lesquels il faudrait travailler plus longtemps. Parce que les questions qui sont posées sont parfois des questions très lourdes, qui sont des sujets sur lesquels, finalement, on constate un semi-échec depuis 10, 20, 30, 40 ans. Ça ne se règle pas par une annonce.
Alors le président s'est prononcé, mais ça reste flou. C'est-à-dire on ne sait pas comment on va en sortir et quand on va en sortir vraiment.
On entend des choses quand même. Le président parle de décentralisation. Il parle d'un pacte rural. Ça, c'est un point très important. On a regardé la France comme si elle était homogène, comme si chaque territoire se valait, comme si le seul critère de différenciation, c'est la composition de la famille et les revenus. Mais en fait, la même famille avec les mêmes revenus qui vit en centre-ville ou qui vit beaucoup plus loin, dans un village, dans un territoire très rural, n'a pas le même mode de vie, pas le même mode de logement, pas le même mode de transport. Donc on parle différenciation, on parle service public de proximité, tout ceci commence à se décanter.
Bon, mais c'est encore flou pour le moment, pour l'issue. En tout cas, Emmanuel Wargon, le Premier ministre, a déjà prévenu que les Français risquaient d'être déçus. Le risque, en effet, c'est que la montagne accouche d'une souris.
Je crois que ce grand débat nous oblige. Ce grand débat, nous l'avons proposé aux Français, et ils ont accepté d'y participer, ils ont trouvé les sujets intéressants, ils ont contribué sous plein de formes. Bien sûr que ça nous oblige à être à la hauteur de ce que les Français nous demandent. Tout ne peut pas se traiter par des annonces à la fin, tout se traitera aussi par l'acte 2 du quinquennat, la capacité à remettre sur le métier des sujets compliqués, élargir le programme de gouvernement, et j'espère bien qu'on ne décevra pas.
Emmanuel Wargon, nous sommes le 8 mars, c'est la journée des femmes. Est-ce que ce n'est pas un peu comme la Saint-Valentin, la fête des mères, un petit bouquet, un petit bisou et hop, on passe à autre chose?
Oh bah c'est sûr que si on ne s'intéresse aux femmes que le 8 mars, c'est un peu déprimant.
C'est un peu
court.
Donc
moi, je ne suis pas totalement favorable à ces journées symboliques. Je crois qu'on a dépassé ce cap, je l'espère en tout cas.
Marlène Schiappa dit que la France est un pays sexiste. Vous partagez son diagnostic?
Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'insertion professionnelle des femmes, dans le respect. Après, on a encore des sujets extrêmement lourds, les violences faites aux femmes, et elles le rappellent, il faut absolument qu'on progresse. Mais dans les représentations, même si les femmes accèdent à des postes de responsabilité, nous ne sommes pas totalement jugées de la même manière. Et des qualités masculines deviennent des défauts féminins. Et ça, ça devient fatigant.
Par exemple ?
Mais quelqu'un de très affirmé, ça sera très positif chez un homme. Et ça sera limite caractériel ou hystérique chez une femme.
C'est pas faux. Vous êtes entré au gouvernement il y a 4 mois et demi. Quand on devient ministre, on continue à être exposé au sexisme ?
J'ai la chance d'être dans un gouvernement très paritaire, avec des femmes qui occupent des postes à forte responsabilité. Je pense à Agnès Buzyn ou à Florence Parly, par exemple. Et donc, ça permet d'être vraiment dans une équipe. Après, on a des exercices très contraints, les questions au gouvernement, par exemple, dans lesquelles ça consiste à parler le plus fort possible et de la façon la plus directe, voire agressive possible. Ça n'est pas un exercice très féminin.
Merci beaucoup. Merci Emmanuel Wargon.
Merci à vous.
Merci Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Notez que ce dimanche, le président du Modem et maire de Pau, François Bayrou, sera l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, à suivre en direct dès 10h sur notre antenne.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. 8h30, l'essentiel de l'info, notamment Mehdi Nemmouche, déclaré coupable par la justice belge. Vous entendrez la réaction de l'avocat des victimes. Et puis l'Algérie qui se prépare à de grandes manifestations pour protester une nouvelle fois contre la candidature du président Bouteflika à un cinquième mandat.
Il est 8h27. Belle matinée avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Dans la prochaine demi-heure. Pierre.
La revue de presse avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Qu'y a-t-il dans les journaux aujourd'hui ?
La parole qui se libère, notamment dans l'église avec la condamnation du cardinal Barbara, mais aussi dans la société en cette journée de droits des femmes.
Et puis 8h40, l'immanquable Nicolas Canteloup.
Et puis tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Alors Laurent, le ciel.
Finalement, ce n'est pas si mauvais que ça pour aujourd'hui, puisque nous aurons quand même pas mal d'éclaircies. Dans les secteurs où il pleut sur une partie de la France quand même, hein, sur le Midi-Pyrénées, enfin le Sud-Ouest en général, la vallée de la Garonne, le Massif Central, le Mâconnais, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, le Rhône, encore qu'à Lyon, nous aurons alternance de nuages et d'éclaircies dans la journée. Mais dans toutes les régions où il pleut, on peut dire que les pluies vont s'espacer et disparaître sur place. Elles ne vont plus bouger de l'endroit où elles sont et elles vont laisser place au soleil. Et puis ailleurs, eh bien, les éclaircies seront présentes, hein, sur les Alpes notamment, sur le bassin méditerranéen, il fera très beau. Et puis dans le nord, nous aurons des éclaircies sur Paris, sur la vallée de la Loire, le Poitou-Charente, la Normandie, la Picardie, bref, sur une grande partie du pays. A noter que ce soir quand même, en fin de journée, vous verrez apparaître des nuages sur la Bretagne. Ces nuages vont pénétrer dans les départements bretons. C'est l'annonce d'une perturbation qui nous concernera demain et après-demain. Alors demain et après-demain seront des journées souvent pluvieuses. C'est souvent la moitié nord qui sera touchée par les pluies. Mais dans l'ensemble, quand même, eh bien, compte tenu des températures, ce sera supportable. Justement, les températures aujourd'hui, entre 11 et 13 degrés, vous voyez que ça reste doux pour la saison.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure, juste avant 9h.
Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Marc Riez, vous êtes directeur de la gestion financière déléguée pour les caisses d'épargne. La gestion sous mandat, c'est quoi et ça s'adresse à qui?
En fait, la gestion sous mandat s'adresse au client qui n'a pas le temps ou l'expertise pour gérer seul son portefeuille. Nous lui proposons donc de déléguer cette gestion à nos experts qui vont mettre en œuvre des solutions de placement personnalisées.
Qu'entendez-vous par placement personnalisé?
En fait, nos experts vont sélectionner, en fonction du profil de chaque client, de son appétence au risque, des solutions d'investissement au plus près de leurs attentes. Ensuite, c'est nous qui gérons les placements au quotidien, en toute transparence et en les informant régulièrement des opérations réalisées.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le vendredi 8 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous Pierre Devineau.
Mehdi Nemmouche sera fixé sur sa peine lundi à la cour d'assises de Bruxelles. Le djihadiste français a été reconnu coupable hier de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Avec son co-accusé, il risque la perpétuité. La thèse complotiste avancée par leurs avocats a été balayée. Satisfaction du défenseur de l'Association française des victimes du terrorisme, maître Guillaume Lys.
Ce qui est important ici, c'est surtout le fait qu'on peut rendre la justice dans des affaires terroristes. Les jurés ont analysé le dossier de fond en comble et donc ils ont montré qu'il n'y avait pas de complot, qu'il n'y avait pas de zone d'ombre et donc ils ont fait la vérité judiciaire. C'est vrai que la justice prend du temps, ce sont des faits qui ont été commis en 2014, on est en 2019. Donc il a fallu 5 ans d'enquête pour en arriver là, 2 mois de procès, c'est vrai que c'est très long. Le temps judiciaire est extrêmement long, mais c'est un motif aussi quelque part d'espoir pour les victimes des autres attentats postérieurs qui sont toujours dans l'attente d'un procès. C'est le fait que la justice peut être rendue, elle va être rendue encore ici à Bruxelles pour les attentats du 22 mars, elle va être rendue aussi à Paris pour les attentats du 13 novembre.
Le défenseur de l'Association française des victimes du terrorisme avec Isabelle Horry. Tension entre CRS et surveillants pénitentiaires en grève ce matin devant la prison de Fleury-Mérogis. Les surveillants de prison poursuivent leur blocage 3 jours après l'agression au couteau de 2 de leurs collègues par un détenu radicalisé à Condé-sur-Sarthe. Objectif, récolter 8000 tonnes de denrées alimentaires en un week-end. Coup d'envoi ce matin de la grande collecte d'été des Restos du Cœur. Des bénévoles viendront à votre rencontre dans plus de 7000 grandes surfaces. L'an passé, les restos ont servi grâce à plus de 130 millions de repas. En cette journée des droits des femmes, la secrétaire d'État Marlène Schiappa fait une promesse, la loi généralisant l'autorisation de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Elle sera bien débattue au Parlement avant l'été. Ces derniers jours, l'hypothèse d'un report avait été envisagée. En Algérie, nouvel appel à manifester aujourd'hui contre un 5e mandat du président Bouteflika, qui s'est exprimé hier dans un communiqué. Il met en garde contre le chaos après lui, ce qui n'empêchera pas les manifestants de descendre à nouveau dans la rue tout à l'heure à Alger, à l'image de Nadia, Amel et Fatia.
Ce sera bien plus qu'une marche, c'est une manifestation. Évidemment, je vais sortir avec mes sœurs, avec les membres de ma famille. Il va y avoir des hommes, des femmes. Ce sera le 3e acte, le 3e vendredi que nous sortons dans les rues d'Alger pour manifester, pour revendiquer nos droits d'une seule et même voix, pour dire que l'Algérie nous appartient.
J'ai eu à marcher sans avoir programmé cela la semaine dernière. J'ai eu à travailler vendredi dernier, sachant qu'à côté, il y avait des manifestations et une marche pour une bonne cause. J'ai dû faire un break et pendant mon break, au lieu d'aller déjeuner, j'ai été marcher. Puis je suis revenue à mon bureau. Je veux le changement.
À un certain moment, il y en a marre de tout. On aimerait vraiment avoir un changement radical de ce système, surtout parce que ça devient trop. J'ai 20 ans. Depuis ma naissance, je sais qu'il n'y a que Bouteflika président, donc on voudrait vraiment un changement.
Voilà Nadia, Amel, Fatia, des manifestantes à Alger au micro de Nourchaïn. Enfin en football, Rennes peut rêver d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa après sa victoire à domicile hier soir 3-1 face aux Anglais d'Arsenal en 8e de finale aller. Match retour jeudi prochain.
Europe 1.
Il est 8h34, Pierre Devineau, tout de suite la revue de presse avec Mathieu Charrier.
Et à la une de beaucoup de vos journaux ce matin, Mathieu, le visage du cardinal Barbarin.
Le primat gaulé, titre le journal Libération, le choc en une de la croix. Le cardinal Barbarin a été condamné hier par le tribunal de Lyon à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans l'affaire du père Prénat. L'église de France sous le choc, titre le Figaro en une, le Figaro qui parle de condamnation surprise. Car c'est vrai que le procureur n'avait pas requis de peine à l'encontre du prélat. Il il paie aussi l'addition de ses prédécesseurs, écrit Jean-Marie Guénols dans son décryptage. Pour tirer des enseignements, il va toutefois falloir attendre la décision du pape, poursuit-il. Car si Philippe Barbarin a annoncé qu'il allait se rendre à Rome pour présenter sa démission au Saint-Père, ce dernier n'est pas obligé de l'accepter. Il l'avait d'ailleurs refusé une première fois lorsque l'affaire avait éclaté. Cette condamnation, on la retrouve aussi en une de pas mal de vos quotidiens régionaux. Barbarin la chute pour le journal de Saône-et-Loire. Cette démission est historique, écrit Maurice Bontinck dans la Charente Libre, parce qu'elle montre à chaque victime d'un individu couvert par une autorité que cette dernière ne pourra plus faire comme si elle ne savait pas. La justice, enchaîne Laurent Geoffrin, a lancé à l'Église un avertissement salutaire. Et le Parisien aujourd'hui en France de donner la parole à Alexandre, l'homme qui a fait chuter Barbarin. C'est lui qui avait alerté le cardinal en 2014. Cela montre à l'Église qu'elle n'est pas au-dessus des lois, réagit-il. Alors cet Alexandre, il est joué par Méduil Poupeau dans le film Grâce à Dieu de François Ozon, qui raconte comment cette association, La Parole Libérée, a révélé le scandale. Le réalisateur réagit d'ailleurs dans Libération, parlant de victoire symbolique importante. Le film a déjà attiré 500 000 spectateurs et franchement, si vous n'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end.
Et ça, c'est le monsieur cinéma d'Europe 1 qui dit la parole des femmes qui se libère également à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes.
La journée des femmes est une ineptie, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, mais qui doit impérativement durer parce qu'elle a valeur de symbole et permet d'éveiller les consciences, poursuit-il. Nicolas Charbonneau dans le Parisien, la journée des femmes est coincée entre la journée mondiale du tennis et celle de la plomberie. On en est là de voir réaffirmer une fois par an une évidence. Alors, chaque journal local y allait de son portrait. Lyonne Républicaine est partie à la rencontre de Manon, Sandra, Delphine et Anaïs dans une gendarmerie, dans les vignes, un hôpital ou les transports routiers. La République du Centre a rencontré Marilène et Nicole qui tiennent les rênes d'un des plus gros clubs d'athlétisme du département. Centre Presse est allé voir des femmes sapeurs-pompiers. Le Midi Libre a donné les rênes du journal à trois femmes de la région. Alors que la Charente Libre rappelle que dans ce département, trois femmes ont le pouvoir. La préfète, la directrice académique et la patronne de l'Agence régionale de santé, elle témoigne. On retient aussi la prise de parole à cette occasion de Marlène Schiappa dans Le Parisien aujourd'hui en France. La secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes souhaite un allongement du congé paternité. Erançon d'y aller de son dessin. On y voit deux hommes chauves en costume qui regardent une femme en tailleur et qui ironisent. Le premier, féminiser les noms de métiers. Femme de ménage devient femme de ménage. Et l'autre de répondre, normal.
Et il y a aussi ces femmes de combat dans vos journaux ce matin.
On découvrira le portrait d'Elena Gorolova dans les colonnes du magazine Society. Elle est travailleuse sociale tchèque et fait partie des 100 personnalités féminines les plus inspirantes de 2018 selon la BBC. Son combat, la lutte contre les stérilisations forcées des femmes roms en République tchèque. On lira aussi dans l'Humanité le témoignage de ces femmes qui veulent repenser l'architecture de nos villes. Car aujourd'hui encore, écrit le journal, l'espace public est construit par des hommes et pour des hommes. Les deux tiers des activités financées par les pouvoirs publics, par exemple, sont destinées aux garçons. Le département de la Seine-Saint-Denis a d'ailleurs annoncé hier l'organisation d'un colloque pour la fin de l'année, genre et espace public. Enfin, puisqu'on parle de paroles qui se libèrent, Le Parisien revient sur cette plateforme téléphonique mise en place pour recueillir le témoignage des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Elle est installée à Guyancourt dans les Yvelines et 16 policiers s'y relaient toute la semaine.
Et puis la parole doit encore se libérer également chez les adolescents.
Car l'on découvre dans les pages science du Figaro qu'être victime de harcèlement à l'adolescence impacterait le développement cérébral et ça pourrait entraîner des troubles psychiques. C'est très sérieux puisque c'est une équipe de chercheurs du King's College de Londres qui a mené l'étude portant sur 682 ados et parue dans la revue Nature. Ils ont constaté, note le Figaro, une modification de la trajectoire du développement cérébral chez les victimes de harcèlement. Rien ne dit, en revanche, dans l'étude si ce phénomène est réversible dans le temps.
Allez Mathieu, on va terminer par deux histoires totalement ubuesques.
D'abord, cette femme condamnée à 4 mois de prison ferme pour, écoutez bien, avoir appelé 1200 fois les gendarmes en 6 mois.
Ah ouais.
Ça fait 6 appels par jour en moyenne, c'est-à-dire dans l'éclair des Pyrénées. Rachel a 54 ans et elle a justifié à l'audience ses appels par des crises d'angoisse qu'elle a le soir chez elle, parfois sous l'effet de l'alcool. Quand je ne suis pas bien, j'appelle les gendarmes. Voilà comment elle résume la situation. Et puis en une du Bien Public, ce titre intriguant, il menaçait des fillettes pour leur voler leurs chaussettes.
Oh là là.
Les faits se sont déroulés lundi et mardi à Dijon. Un homme a menacé 4 jeunes filles de 10 à 13 ans pour qu'elles lui remettent leurs chaussettes. La police, qui a pris l'affaire très au sérieux, a interpellé un suspect qui va être présenté à un juge. Une histoire qui ne nous aide pas à nous lever du bon pied.
La revue de presse signée Mathieu Charrier, merci.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Attention, il arrive dans quelques instants, c'est Monsieur Canteloup et sa revue de presse.
Il est 8h39. À tout de suite avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il est 8h41.
C'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, le best-of.
Et Mathieu. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui dans la Drôme pour une nouvelle confrontation avec des maires dans le cadre du grand débat. On est en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous l'avais dit. Jusque-là, le débat se passait bien. Et puis soudain, c'est la Drôme.
Oh, allez. Bon, alors, vous allez rencontrer des maires aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Oui, écoutez, je suis déjà sur place.
Déjà?
Oui.
Bravo.
Je prends un bain de mer.
J'adore les bains de mer,
oui. Oui, le maire, oui. Monsieur Cabrol avait compris. Oui, l'élu municipal, pas la mer, l'élément aquatique. Vous l'avez? Oui, bon, très bien, parfait. Bon, laissez tomber. Allez, on va commencer. On est sur les sujets.
Oula.
Voilà, allez-y.
Larsen.
Que chacun. Je vois que je vous êtes professionnel du son, monsieur. Allez, bah oui. Vous faites souvent des lives en direct, je suppose.
Oh là, oui, c'est ça.
Alors, oui, bien, deux fois en régie. Alors écoutez, que chacun. Attends, je m'adresse
allez-y,
à
allez-y.
Que chacun se sente libre, mesdames, messieurs, les élus. On va vous passer en préalable des bonbons à la menthe et ensuite vous pourrez poser toutes les questions qui vous tracassent.
Oh non, mais ils sont malades.
Oui, non, parfois les maires sont à 20 cm de moi. Donc. Oui,
oh non.
Alors qui commence? Qui se lance? Allez-y, n'hésitez pas. Oui, monsieur avec. Monsieur, non, pas vous, madame. Non, monsieur avec le pull moche. Là, allez-y.
Oui, bonjour, Raymond Caramagnol, maire de Saint-Bougnard-les-Olivettes dans le Gard.
Bonjour, monsieur.
Enfin, c'était dans le Gard, et puis il y a eu, bon, vous le savez, un glissement de terrain. On est aujourd'hui dans les Landes, désolé.
Oula.
Oui, bon, écoutez, monsieur Caramagnol, je ne sais pas quoi, Raymond, venez en fait, s'il vous plaît.
Bon, d'accord. Alors, donc, monsieur, j'en viens au fait.
Ouais.
Monsieur le Président, oui. Que oui. Comptez-vous faire?
Allez-y. Vous pouvez cracher si vous voulez.
Pour les communes de moins de 5 habitants.
Alors,
attendez, pour les villes, les communes de moins
communes
de 5
habitants.
Habitants,
oui, monsieur Caramagnol. pour les communes de 5 habitants, donc les communes, ces communes vont être regroupées avec les communes de moins de 20 habitants. Et on va les supprimer parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Suivant, monsieur ou madame, je ne sais pas, d'ici on voit mal, c'est pas clair.
Oui, bonjour, je me présente Ginette Palour.
Oui, donc a priori c'est madame.
Oh là là, mais c'est
voilà, monsieur le Président, ma facture d'eau était de 11,95 € en janvier 2017. Je vais être précis, pardonnez-moi. Elle est passée à 12,04 € même en janvier 2018.
Oui, oui.
Pour atteindre aujourd'hui 12,27 € en janvier 2019.
Oui. Donc, oui.
Alors voilà, je vous pose la question, comment fait-on? Comment peut-on faire face à cette augmentation?
Oui.
Tout de même, voilà. Parce que moi, avec ma petite retraite, vous comprenez, vous savez, j'ai 73 ans. Et ce que
oui, alors écoutez, vous... oui, attendez, 73 ans, madame Palour, hein, c'est ça, 73 ans,
madame,
vous avez un problème de facture d'eau. Donc mon conseil, on est d'accord, vous n'êtes plus en phase de séduction. Hein. Donc mon conseil, c'est quoi? Lavez-vous moins. Hein. Sortez quand il pleut, comme dans la pub Tahiti Douche. Hein, et en plus, ça fera rire les enfants.
Merci, monsieur le Président. On va vous laisser, prie. Vous avez une dure journée devant vous, là.
Je
et
crois.
On est fâchés avec tous nos auditeurs de la Drôme. Bon, on va essayer de les récupérer.
On les embrasse.
Et c'est la Drôme.
Allez, on poursuit avec les scènes de chaos hein, de vendredi, des lieux
oh
symboliques
oui
comme l'Arc de Triomphe ont été vandalisés, Stéphane Bern. Alors vous qui êtes en charge du patrimoine,
oh
vous devez être effondré. Hein.
Oh oui, je suis colère, je fais tellement d'efforts pour le patrimoine, je suis courroux. Oh le vilain week-end
ah,
pour
oui,
le patrimoine.
Oui.
Oh oui, ma Julie, mon Nico, je me suis fait éclater l'Arc de Triomphe sous les caméras, je me suis fait calciner le platane, je me suis fait démonter l'étoile. C'est intolérable.
Oh, oui, mais ça doit être douloureux pour vous.
Oh oui, à qui le dites-vous?
Je ne sais pas si c'est le bon terme. Il va falloir des jours pour tout remettre en ordre, surtout, hein, cher Stéphane.
Oh mais ne m'en parlez pas, j'ai passé mon dimanche à nettoyer, balayer, à sticker, casam pas du tout pimpant. Oh non, je l'ai dit à Emmanuel, je rends mon tablier, je rends mon balai, je rends mon instincteur, je n'en puis plus.
Eh ben bon courage quand même. Allez, la multiplication des accidents de chasse fait croître le débat. Faut-il tout simplement interdire la chasse? On est au téléphone avec Jean Lassalle. Vous vouliez réagir, monsieur Lassalle?
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Lagarde.
Bonjour
à tout votre troupeau, autour de vous. Bien docile. Écoutez, moi qui fréquente beaucoup de chasseurs, mais également beaucoup de sangliers, je voudrais essayer de réconcilier, c'est important, les partisans et les opposants de cette activité typique de nos terroirs.
Ah, vous comprenez, vous, que quand on confond un promeneur avec un sanglier, on puisse se poser la question de l'interdiction quand même?
Écoutez, franchement, Mme Julie, moi, il m'est arrivé qu'on me prenne pour un sanglier. Qu'ai-je je fait? Est-ce que j'ai réclamé l'interdiction de la chasse pour autant? Non. Je me suis, monsieur les gars, je me suis remis en question. Je me suis lavé, j'ai arrêté de marcher à quatre pattes et j'ai changé de coiffure. Et depuis, pas un chasseur, pas un seul ne m'a tiré dessus. Si les gens ne veulent pas être pris pour des sangliers, ils n'ont qu'à prendre une douche avec de la volonté.
Emilien, excuse-moi, Jeannot, je t'ai pris pour un ragondin.
Ah, mais enfin, fais gaffe, Emilien. En plus, j'ai mis un chapeau. Comment t'as pu confondre?
Excuse-moi, je suis un peu bourré.
Enfin, il est même pas 9h. Faites, vous avez raison, Magie. Il y a peut-être un problème avec les chasseurs. Emilien! Emilien! Tire pas sur ma femme!
Oh, désolé, j'ai cru que c'était une belette.
Oui, mais ma femme, c'est une belette. Ça va, chérie?
Ça y est, on connaît son nom, la nouvelle Miss France s'appelle Vaimalala Chavez. Miss Tahiti, hein? Vaimalama.
Laissez-moi passer. Laissez-moi, vous là. Laissez-moi, je ma personne est sacrée. Laissez-moi. Vive Miss Révolution.
Mais Jean-Luc Mélenchon, comment ça, Miss Révolution?
Eh ouais, c'est... ouais.
Elle s'appelle Vaimalama Chavez.
Ouais, ouais, ça vous fout les boules.
Miss Révolution,
les,
pourquoi?
Les journalistes, les journaleux capitalistes, les larquets du pouvoir, les nantis.
Hein,
que la fille d'Hugo Chavez, oui, devienne Miss France.
Ah,
bravo, Miss Chavez. Bravo, Miss Insoumise. Miss Socialisme. Oh, tu étais belle. Hein, avec tes fossiles, hein, tes fossiles et tes marteaux.
Oh,
autre chose que free for freeze.
Bon, non, mais vous vous trompez. Vaimalama Chavez, c'est pas la fille d'Hugo Chavez.
Ouais, ouais, ouais. Répands tes fake news, espèce de déviationniste contre-révolutionnaire.
Déviationniste.
Hein, ouais. Ça t'emmerde, hein, que le peuple trouve la révolution sexy. Que les Gilets jaunes aient voté pour une Miss anticapitaliste. Mais moi, je soutiens Miss Chavez. Je vais désormais porter, vous savez quoi, un diadème, symbole du grand soir.
Oula.
C'est la Miss finale.
C'est la Miss finale. Emmanuel Macron a donc écrit aux Français, on découvre la lettre ce matin, pour donner le cadre du grand débat national. Alors rappelons que certains sujets ne seront pas débattus, quoi qu'il arrive, hein, comme la remise en cause de la peine de mort, de l'IVG ou du mariage pour tous.
Sus à l'ennemi, Taillot, marchons sur le château, alléluia.
Bonjour. Il y avait longtemps, hein. Alors, en tant que fervent opposant au mariage pour tous, on imaginait bien que vous alliez réagir, vous, hein.
Et comment, femelle? Ainsi, seule sa majesté choisirait les sujets sur lesquels le peuple a le droit de réfléchir, c'est ça? Nous devrions nous réjouir que l'oligarchie daigne nous accorder la parole sur un ou deux sujets secondaires quand le principal sujet est banni. Dictature macroniste. J'en connais un qui va finir par sécher une branche d'arbre. Tayo, alléluia, hosanna au plus haut des cieux. Abdoulilah, abdoulilah. Pardon, c'est la fièvre, c'est la colère.
Alors, monsieur de Villiers, ben, c'est pas le sujet principal, le mariage pour tous, quand même.
Écoutez, excusez-moi, mais quel sujet plus important? Les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir? Bah, la belle affaire, de toute façon. Ça coupe l'appétit de voir deux goudous se tenir la main.
Oh, hein, oh,
le chômage, non mais le chômage, mais que l'on reste chez soi au moins. Quand on regarde Motus, on ne risque pas de rencontrer les invertis moustachus qui font des GPA dans nos rues.
Oh là 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 là.
Non, il n'y a pas de oh là là, non, femelle. Rien n'est plus important. Rien n'est plus important qu'un papa et une maman. Et plus encore, un papa dans maman.
Oh là 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 là. En fait, on n'a pas parlé de Claude Guéant. On va le faire avec Nicolas Sarkozy tout de suite. Bonjour, oui, monsieur Sarkozy.
Bonjour, Mme Julie, monsieur Ergas.
Bonjour,
merci de m'accueillir à vous. Hein.
Alors, vous le connaissez bien, vous, hein?
Claude Guéant, si je connais Claude, Claudio les beaux tableaux, comme on l'appelait. C'est mon ami, c'est mon frère, il m'a suivi partout. Hein.
Et il vient d'être condamné définitivement à 1 an de prison ferme.
Qui ça?
Bah, Claude Guéant.
Claude qui?
Claude Guéant.
Non, mais Claude qui? Je connais pas de Claude, madame. Et d'ailleurs, je ne connais pas de madame Claude non plus, d'ailleurs, monsieur Agas.
Il a été condamné pour des primes en liquide qu'il a touchées entre 2002 et 2004.
Ah, mais ça, c'était avant que je sois président, alors. Mais bien sûr que je connais Claude Guéant, alors.
Ah, entre 2002 et 2004, il était votre directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur.
Qui ça?
Bah, Claude Guéant.
Je connais pas, moi.
Bon, bah, merci Nicolas Sarkozy.
Qui ça? Je ne connais pas.
Nicolas Canteloup qui revient en direct lundi prochain.
Et en attendant, vous pouvez le réécouter en podcast ainsi que sur europe1.fr.
Dans quelques minutes, le tour de la question avec vous aujourd'hui, François Claus. Bonjour François.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et tous. Une double agression mardi soir dans une des prisons les plus surveillées de France. Un détenu particulièrement surveillé qui agresse deux gardiens de prison avec un couteau qui rentre dans la prison. Et voilà le mouvement des prisons qui repart, ce mal endémique français. Pourquoi? Comment? La vocation de réinsertion de la prison, où est-elle au moment où on débat du retour des djihadistes en France? On va tenter de faire le tour de la question si pointue et si délicate que celle des prisons en France. Et puis, deuxième heure.
À 10h.
Hein, on est le 8 mars aujourd'hui.
Oui.
Donc, une journée pour en parler. 364 peut-être pour agir. Journée du droit international des femmes. Et on a fait le pari d'en rire un peu. On va vous faire découvrir les nouvelles voies du féminisme ou des femmes, tout simplement, à travers l'humour.
À tout à l'heure, 9h pile avec François Claus.
Et oui, pour agir, effectivement. À suivre la météo avec Laurent Cabrois, et puis l'essentiel de la matinale, juste avant 9h avec Pierre Devineau sur Europe 1. Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Pierre Devineau, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
C'est plutôt pas mal hein Laurent.
Aujourd'hui ça se calme un petit peu dans la journée, c'est-à-dire que nous avons une zone de pluie qui traverse la France, comme j'en parle depuis ce matin, vous finissez par la connaître chers amis, si vous êtes en notre compagnie, si vous faites cette amitié, de toute manière la perturbation va crever sur place, c'est pas très joli mais c'est comme ça, elle va se désintégrer sur place, et alors qu'ailleurs les éclaircies vont l'emporter. Demain samedi nous allons vivre une journée qui, faut bien le dire, sera pas très agréable du tout même, et nous aurons le dimanche également un temps pluvieux, un temps ma foi qui sera dans l'ensemble pluvieux sur l'ensemble de la France, alors que lundi ça ira un petit peu mieux, mardi, mercredi de nouvelles intempéries, et la semaine prochaine s'annonce tout aussi agitée que celle que nous avons vécue, peut-être même plus. Donc vous voyez, nous ne sommes pas sortis encore de cette agitation générale.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le vendredi 8 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Pierre Devineau.
Tout ce qu'il ne fallait pas rater dans cette matinale d'Europe 1, nous sommes le vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, justement. Où en sommes-nous en France en 2019 de l'égalité homme-femme dans le monde du travail? La rédaction a mené l'enquête et force est de constater que les inégalités persistent, notamment dans les milieux professionnels dits masculins, comme dans l'informatique, 30% de femmes seulement perçues comme moins compétentes. Écoutez le témoignage totalement dingue de Yaël Dehaze, qui forme les femmes au codage informatique. C'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
Oui. On a proposé des lignes de code écrites par des hommes et des femmes, sans dire c'est écrit par un homme ou par une femme. Et ben, le code écrit par des femmes a été mieux noté. En revanche, dès qu'on a mis ce code écrit par une femme, poum, on est redescendu en bas du classement. Parce que quand c'est écrit par une femme, on suppose que c'est moins lisible. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. Donc revenons dans le code, les filles, c'est fait pour nous.
Témoignage totalement édifiant. C'est l'un des principaux thèmes qui revient sur la table des discussions du grand débat national. La question de la transition écologique. Comment la financer? Alors que la fiscalité et le trop d'impôts restent la principale préoccupation évoquée dans le grand débat, le point de départ de la crise des Gilets jaunes. Écoutez à ce sujet la secrétaire d'État à la transition écologique. Emmanuel Wargon était l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
La taxe carbone a un avantage, c'est que si on l'améliore et si on en affecte la totalité des recettes à la transition écologique, on garantit une visibilité pour financer cette transition. Mais on ne va pas sortir d'une crise qui a commencé avec un impôt en sortant avec un nouvel impôt.
Donc on ne remet pas sur la table la taxe carbone, c'est exclu.
En tout cas, pas d'augmentation globale d'impôt, ça n'a pas de sens. Une fiscalité organisée complètement différemment, dans laquelle on irait taxer tous les pollueurs, y compris les gros pollueurs, ça a un sens.
Un rancard à ceux qui n'ont plus rien, c'était il y a 33 ans. Coluche lançait sur Europe 1 les Restos du Cœur. Aujourd'hui, les enfoirés sont toujours de plus en plus indispensables. Concerts diffusés ce soir et grand week-end de collecte dans les supermarchés. L'objectif est de récolter 8000 tonnes de denrées. Vous croiserez ces bénévoles à la sortie de votre supermarché, comme Jennifer qui a rencontré Marie, c'était dans le journal de 8h.
Je suis en train de déballer les produits que j'ai achetés pour les restaurants du cœur. Des choses qui pourraient se garder. Du café, du thé, chocolat. Je trouve que c'est une excellente initiative. Il faut penser aux
autres. Au resto, aujourd'hui, on accueille énormément de mineurs. On a aussi des structures qui accueillent spécifiquement les mamans et les bébés jusqu'à un an. Et on sait que tout ce qui est hygiène bébé, couches, les premiers âges, petits pots, sont des choses assez chères. Donc c'est vrai qu'on le signale particulièrement sur les produits bébés.
Aujourd'hui, on a plus de droit.
Voilà pour l'essentiel de cette matinale, tout ce qu'il ne fallait pas rater. J'ai été ravi de vous accompagner ces quelques jours. Demain, c'est Bernard Poirette qui vous réveille dès 6h. Dès lundi, vous retrouvez Nico Saliagas à 6h55 pour le passage de relais. Merci à toutes les équipes d'Europe 1. Merci à Nicolas Baudin, à Julien Blanc, à toutes les équipes, à Théo Cossa, à Jean-Philippe Ballas. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Je vous laisse avec François Clauss.
Et merci à vous, Pierre.